Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, au fait, l'émission est sponsorisée ce mois-ci par le film Avengers Infinity War.
Oh. Oh.
Qui sort le 25 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, au cinéma. Et il paraît qu'il s'agit du crossover le plus ambitieux de l'histoire.
Non. Je ne veux pas te laisser dire ça. Le crossover le plus ambitieux de l'histoire, tout le monde sait que c'est Natural Born Killers, Dr. Dre et Ice Cube.
Pour moi, le plus grand crossover de l'histoire, c'est quand Camus a fait son Patreon et que la plupart de nos patrons sont partis sur son Patreon à lui. Là, je l'ai vraiment vécu.
Alors que moi, je pensais en vrai que le plus gros crossover... C'est quand je suis parti lancer Louis Média.
Ah. Je pense que vous allez tous devoir vous calmer parce que le plus grand crossover de l'histoire, c'est Space Jam. Je vous rappelle que c'est un film qui met en scène Bugs Bunny et Michael Jordan, donc voilà.
C'est vrai qu'il y a un petit level. Donc oubliez bien vite le studio des temps de février, qui était le vrai plus gros crossover de l'histoire, du pif bien sûr. Pour en revenir au sujet, c'est vrai qu'il va y avoir du monde dans Nouvelle Avengers. J'arrive même plus à me rappeler du nombre de super-héros au mètre carré. Et en tout cas, merci à eux, merci à toi Tony Stark de sponsoriser cette émission. Studio 404, bien sûr grâce aux armes et aux ventes d'armes. Allez, c'est parti.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour et bienvenue dans le Studio 404. Nous sommes enfin de retour au Bercail. Fini la province, nous sommes à Paris. Est-ce que ça va bien Paris? Un petit ouais, pas mal.
Ah, ils étaient plus chauds il y a 3 heures quand vous auriez pu arriver.
Oui, alors on est un peu en retard, évidemment, pour respecter les formes et pour respecter la mythologie de Studio 404, cette émission toujours en retard. On n'enregistre pas à 23h30 ce coup-ci. Nous sommes dans un afterwork. Voilà, nous sommes chez Publicis, nous sommes dans notre environnement naturel, trentenaire connecté, freelance, tout le tralala. Merci en tout cas.
Pas tant que ça.
À Publicis. Comment ça?
J'ai fait un sondage avant et il n'y a pas tant de freelance que ça.
Mais en fait, il y a déjà
beaucoup de trentenaires.
Pour te rassurer, à 18h45,
oui.
Il y avait quand même 4 personnes dans la salle. Genre les 2 étudiants et le graphiste.
Et le DRH.
Ça fait plaisir. Il faut rendre hommage aux gens qui arrivent à l'heure aux soirées.
C'est pas nous.
Et qui arrivent toujours, il n'y a personne dans le salon, tu ne peux pas danser. T'as l'autre qui est complètement débordé, qui est en train de courir partout. Tu t'assois, tu ne sais pas. Il y a une heure et demie qui se passe, qui est vraiment très dur. Mais ces gens-là sont là au début et ça fait plaisir.
T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va, je m'occupe de tout.
Oui. Et ils attendent. On connaît cette ambiance. En tout cas, la soirée va commencer. Un studio 404 aux petits oignons. Un studio 404 à l'ancienne. 4 chroniqueurs, 4 chroniques, des débats, une union sacrée. Ça va être absolument magnifique. Comment allez-vous, chers chroniqueurs? Comment vas-tu Sylvain, puisque Sylvain revient du Japon, c'est le moment, il va nous faire de l'Instagram audio.
Tout à fait, je reviens du Japon, c'était fantastique, voilà.
Est-ce que c'était entre
tradition et
modernité?
Absolument.
Ah, le Japon éternel, incroyable ce pays, toutes ces technologies. Fibre, tu étais à...
J'étais dans le 5e arrondissement, entre tradition et modernité, on a la fibre depuis pas longtemps finalement, même si on est proche de Paris finalement.
Tu es toujours parisien ou tu es bientôt un néo-provincial, néo-parisiano-provincial?
Mon plan, c'est d'être provincial, mais de ne pas le dire. Et de rester un parisien infect encore le plus longtemps possible. Mais bon, ça va être dur quand même. Parce que, voilà. Je vais bientôt partir en province.
Un plan parfaitement mené, évidemment. Mélissa, comment ça va?
Écoute, j'étais dans mon salon, dans le 10e, entre tradition et modernité, à Château d'Eau.
Voilà. Oula, beaucoup de tradition.
Donc tout va bien.
Ça va bien, Louis?
Très bien, je sors d'une journée de montage de l'enfer. Je ne sais pas si quelqu'un est monteur dans cette pièce, mais franchement, je vois un culte à tous les gens qui sont monteurs dans ce monde et qui ont de la patience.
Forcément, il va y avoir un monteur dans la salle. Il y a un monteur audio, vidéo.
Faites de la vidéo.
Tu vois, personne ne le fait.
Ah,
je comprends, j'ai compris aujourd'hui pourquoi.
Il y a Ghislain derrière toi.
C'est vrai.
Gislain, il est réel, tu vois.
Attendez, est-ce que c'est pas Gislain sur le 404?
Si, c'est Gislain.
C'est Gislain sur le 404.
Incroyable. J'avais jamais vu d'aussi près.
Incroyable. Comment ça va, Daz?
Bah ça va super bien, moi, contrairement à notre forum, parti parcourir les plaines bucoliques du Valhalla numérique,
des
sites crachés. Le problème, c'est les gens qui participent à ce forum et qui l'ont complètement submergé avec des gifs et des images qui servent à rien, on va le dire.
Comment ça ? Le problème actuel n'est-il pas celui de la personne qui ne le répare pas ?
Mais c'est pas moi.
Comment ça ?
Moi, je l'ai mis en place.
Et ?
Et il n'y avait à aucun moment dans le contrat, si tant est qu'il y ait eu un contrat.
Dans le pacte d'associés, il n'y avait pas maintenance
absolument pas.
IT Crowd, tout ça ?
Absolument pas. C'était prospectif, projection numérique vers la modernité et.
Un peu la tradition aussi.
Voilà. Et c'est tout, en fait. Donc je vais essayer d'outsourcer tout ça pour le remettre en ligne. Mais je me dis que finalement, ça serait peut-être pas mal de le garder off le temps qu'on aille au camp.
Comment ça ?
Parce que quand on va au camp,
il y a des vandales,
il y a des gens qui viennent bousiller le forum et poster des hélicobites un peu partout.
Et puis comme ça, les gens qui sont jamais venus au camp, ils vont stresser à mort parce qu'ils pourront pas aller sur le forum pour voir la réponse ou l'organisation ou les dates ou l'adresse. C'est vraiment un super plan.
Ça va être beau. Mais c'est important les hélicobites, c'est une forme d'art.
Mais tu le diras quand ce sera toi qui
ira nettoyer
les 170 trades souillés, n'est-ce pas ? Non, mais ça va être réparé bientôt, j'y crois.
On y croit très fort. Donc, on vous prépare une émission, donc quatre chroniques différentes entre modernité et tradition de 404, évidemment. Et attention, donc il est à peine de retour du Japon, mais il est déjà énervé contre certains Français.
Je suis remonté comme un coucou.
Monsieur Sylvain Palais.
Sujet numéro 1.
Ma morning routine ? Ne pas croire les gens qui vous racontent leur morning routine.
Oh, ça sent le Loïc Barbier.
Cette scène se passe dans une entreprise normale, dans un service marketing et communication normal, dans une France normale, bien que très à droite politiquement en ce moment. Écoutez Bertrand, pour cet événement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il va falloir secouer les consciences, déranger, provoquer. Il faut que cette conférence sur la transformation digitale fasse date. Il faut que chacun des cadres de la défense, pendant toute la semaine suivante, se souvienne de nous comme de leaders innovants. Des idées ? Bertrand réfléchit. Des idées ? Non, une seule, mais bien suffisante. Laissez-moi faire, je vous prépare une liste de speakers inspirants. Oh, cela vous évoque quelque chose peut-être, un déjà vu. Une scène similaire qui se serait déroulée au sein de votre propre Cogipoo, de votre propre Publicis. C'est normal. Vous, moi, nous et tous ceux qui le veulent ont déjà été confrontés à, et je n'ai pas peur des mots, cette gangrène moderne que nous allons baptiser, pour le besoin de cette chronique, le business de l'inspiration. Dans le top 20 des bouquins vendus sur Amazon, quand on enlève les Guillaume Musso et les livres sur lesquels on peut tomber au bac de français, on retrouve les titres suivants. Les 5 accords Toltec, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, la confiance en soi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire essentiellement des bouquins de développement personnel rédigés par des types autoproclamés experts parce qu'il leur est arrivé une histoire incroyable et un moment révélateur. Dans la catégorie business, c'est encore pire. Je vous fais grâce du catalogue, mais sachez qu'on y trouve à peu près les mêmes gugus qui vous assurent sur YouTube que vous allez faire des millions, des milliers par jour sans bouger de votre chaise. Et le journalisme, ce noble métier régi par une sévère déontologie, ne fait pas exception à cette nouvelle règle. Qu'il s'agisse de nos chers éditorialistes invités sur tous les plateaux, surtout ceux de BFM, ou de journalistes slash auteurs slash influenceurs Instagram qui nous bombardent de citations et de mantras sur comment vivre notre vie. J'ai des noms, je ne les donnerai pas, mais généralement, ils répondent à mes apostrophes des choses comme « Si tu travaillais autant que moi, tu n'aurais pas le temps de critiquer. » Ok, Donald. Même dans le podcast, les talks inspirants sont légion. Fibre Tigre a même participé à l'un d'entre eux.
Eh oui.
Mais rappelez-vous, il y a 3 ans à peine, 3 ans déjà en fait, nous explorions LinkedIn dans une de nos chroniques. Ce Facebook pour les vieux, depuis racheté par Microsoft, a bien changé. Depuis que l'on peut y suivre des leaders via LinkedIn Pulse, les speakers inspirants du dimanche se sentent pousser des ailes. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de Gregory Logan, ou l'une de ses nombreuses parodies. Si vous vivez dans une cave, je vous conseille de visiter le forum quand il sera réparé et son topic dédié Perles de LinkedIn. Morceau choisi, Gregory Logan donc. Et si on se mettait à faire au lieu de parler ? Ça changerait beaucoup de choses. Mon jour préféré de la semaine ? Le lundi.
Je t'es sûr.
Qui est de cet avis ? Hashtag stop talking, start doing. Mais pourquoi aller chercher ce genre d'énergumène en Suisse alors que la France regorge de superbes exemples ?
Salut YouTube Énergie, c'est Maxime Barbier. Et non, vous n'êtes pas dans le Daily Max parce que le Daily Max c'est fini. Mais j'ai envie de prendre quelques minutes avec vous dans mon dimanche pour vous parler de ma morning routine.
Imaginez quelques secondes bosser pour un mec qui commence toutes ses phrases par Énergie. Comme pour se convaincre lui-même qu'il n'est pas en train de foutre sa vie en l'air avec ses morning routines qui ne lui laissent plus que 4 heures de sommeil par nuit. Pour ceux qui ont écouté notre émission Jeux de rôle de Noël, sachez que mon personnage de Loïc Barbier est très fortement inspiré de ces facétieux êtres vivants. Et si vous pensez que ces gens sont marginaux, eh bien vous vous trompez. Et si vous pensez qu'ils n'ont aucune influence, c'est également faux. Ce nouveau modèle de l'inspiration, colporté d'abord par ces entrepreneurs gourous, mais bientôt repris par l'ensemble de la société, est, selon moi, très dangereux. La première raison de ce danger, c'est le schéma narratif qui est utilisé dans la plupart de ces prises de parole. C'est un biais cognitif hyper merdique qui fausse l'argumentation et rend le débat complètement stérile. Faire d'un cas particulier une généralité. Utiliser une histoire perso pour délivrer une morale universelle. Utiliser les émotions pour faire passer un message de raison. En politique, on appelle ça le populisme. Et c'est l'outil de manipulation préféré des extrêmes. Voilà, au moins c'est dit.
Ah, carrément.
Et ouais. Petit manuel du petit message parfait, inspirant. Partir d'une histoire perso, une anecdote qui indigne, crée de l'émotion, fait réagir. Petit 2, raconter sa réaction, les mots qu'on a prononcés, la punchline qui a tout résolu. Petit 3, en guise de conclusion, une petite leçon de vie. Et tout ça avec des phrases très courtes qui impriment bien le cerveau des commentateurs sur LinkedIn. Exemple, petit 1, l'autre jour je visitais Tokyo. J'étais complètement perdu, le nez sur ma carte. Un très vieux monsieur qui ne parlait même pas anglais s'arrête pour m'aider. Il a carrément pris une demi-heure de son temps pour m'accompagner à mon hôtel. Petit 2. Pour le remercier, j'ai décidé de lui offrir un café au bar. Résultat, nous avons parlé pendant 3 heures de notre vie. Devinez quoi ? Il a collaboré avec l'Allemagne nazie en 45. Petit 3. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Derrière un gentil petit monsieur se cache parfois un ancien Waffen-SS. Commentez si vous êtes d'accord. Vous voyez, ça marche. Vous êtes certainement très très ému par mon histoire. Et le message est passé. La seconde raison qui m'amène à penser que cette nouvelle tendance est très dangereuse, c'est qu'en privilégiant la forme au fond, en mettant en avant les histoires plutôt que les réflexions, eh bien, cette petite mode, elle contribue à créer une société de l'individu plutôt que des idées. On se moquait gentiment des uluberlus du personal branding en 2010, rappelez-vous. Eh bien, force est de constater que 8 ans plus tard, le personal branding, c'est devenu la norme. Si tu n'as pas une histoire bouleversante à raconter, en quoi es-tu légitime pour prendre la parole sur ce sujet ? Aujourd'hui, on préfère écouter un chef d'entreprise nous parler de sa morning routine que écouter une analyse de son business model, par exemple. Exemple précis qui n'est pas Maxime Barbier, Jack Ma, CEO d'Alibaba. Que connaissez-vous de cet homme ? Qu'il est un des hommes les plus riches de Chine, qu'il a appris l'anglais tout seul, en autodidacte, et qu'il est tellement peu conventionnel qu'il a été viré de ses 30 jobs précédents avant de créer sa propre boîte. Tellement inspirant ! Mais que savons-nous de ses méthodes managériales et des conditions de travail dans les entrepôts de cet Amazon chinois ? Que dalle ! C'est de cette manière qu'on élit des Donald Trump. Et oui, encore un pavé, décidément, cette chronique éclabousse.
Tu déranges.
Elle dérange. Finalement, ce que j'essaye de faire ici, c'est de vous mettre en garde contre ces charlatans qui sont probablement de moins en moins faciles à discerner, à identifier dans la société, la politique et l'entreprise. Comme dit l'adage, la meilleure façon de marcher, c'est encore la vôtre. Et je vous assure que vous n'êtes pas obligé de vous lever à 4h du mat pour être heureux, ni courir le midi pour être plus productif. Je fais référence à ton histoire de footing en entreprise.
Ah là là.
En guise de conclusion, j'aimerais donc vous raconter une anecdote. L'autre jour, je discutais avec un ami qui travaille dans le secteur du coaching en entreprise. Il m'a dit « Sylvain, tu sais quoi ? En ce moment, ce qui explose, c'est la spiritualité. Les gens sont prêts à payer très cher pour entendre quelqu'un d'inspirant leur parler de choix de vie et de chakras. » Alors je me suis demandé « Dans quel drôle de monde vit-on pour avoir besoin de figures inspirantes ?» Et puis je me suis rappelé de Jésus de Nazareth, certainement un pseudo, youtubeur influent qui a commencé en autodidacte avec seulement 12 abonnés. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait certainement écrit un livre plein de leçons de morale tirées d'anecdotes perso. Énergie, pris de panique, je suis allé immédiatement jeter un œil au nombre de vues des vidéos de Maxime Barbier. J'ai soupiré de soulagement en me disant que quand même il fallait surveiller ça de près. Et vous, pensez-vous que l'inspiration soit une nouvelle religion et que le e-book est la nouvelle Bible ? Partagez vos histoires en commentaire.
On peut applaudir ce gourou qui est Sylvain, l'anti-gourou qui est Sylvain Palais. Ah là là, les gourous du improve yourself, du... Comment être rentable et avoir fait 3 fois caca et bu 2 jus de citron à 4h du matin et commencer par checker ses mails, puis ensuite ne plus regarder son ordinateur et à 6h commencer sa journée.
Si vous n'avez pas le courage de regarder la vidéo de Maxime Barbier en entier, je pense que vous ne l'avez pas, le courage. En gros, il a collé des post-it sur son mur
pour
faire son lit, boire un jus de citron.
À l'eau tiède, c'est important.
À l'eau tiède, lire le journal. Donc le mec fait des post-it mets des post-it pour faire des trucs qu'on fait le matin en fait normalement.
Cela dit, quand tu dors prendre une douche, quand tu dors 4 heures par nuit,
t'as besoin d'un post-it. Ouais.
Alors il y a cette grosse tendance évidemment sur l'Indélic, mais un peu partout sur le web. On a vu aussi, je crois qu'il y a la semaine de 4 heures. Évidemment, il y a des podcasts de développement personnel. J'ai l'impression que ça part toujours d'un bon fond et que ça commence à se barrer en vrille tout seul sur, comme tu dis, des syllogismes, des expériences personnelles qu'on va transformer en loi universelle, comme ouais. tu disais, et que notamment sur notre réseau préféré, mais quand même qui touche des gens. Hein. Tu le sais toi-même.
Ah, mais de plus en plus.
Il y a du monde sur l'Indélic.
De plus en plus. Ouais.
Il y a cette sorte de marche en avant du il faut absolument trouver un moyen d'être effectivement énergie productif, heureux d'être productif, que le lundi soit ton jour préféré, que ton patron t'en veuille parce que tu travailles trop. Je sais plus qui avait raconté ce truc là complètement fou.
Ouais, mais c'est des trucs hyper paradoxaux qui normalement doivent choquer
ouais.
et qui sont utilisés pour se transformer en morale quoi. Genre il y a des parodies, les parodies sont tellement bien faites que tu ne connais plus, tu sais plus faire la différence entre le.
Ça c'est la beauté
la
de LinkedIn.
Mais c'est la première fois quand j'étais stagiaire et que j'ai eu le plus gros client de la boîte en mail, et ben je l'ai insulté, j'ai été viré, mais c'était une belle leçon de vie et si c'était à refaire je le referais. tu vois, enfin truc apprendre de tes erreurs machin. Enfin.
On n'est pas loin du poste médium.
Oui, oui, mais ouais. c'est exactement la même chose en fait.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà croisé, de près ou de loin, hein, que ce soit en podcast, sur un motivational poster ou des gourous du mieux vivre, être plus. Comment il s'appelait cette mascotte du massage à caractère informatif où tous les matins tu as une partie de ping-pong, mais les raquettes sont des contrats.
C'était le winner.
Et les balles sont des dollars. Ouais, voilà. Vous avez déjà croisé, vous, ou pas en entreprise, ces gens-là?
En vrai?
Oui.
Non.
D'accord.
Si.
Mais ça, oui.
S'il y en a. Si, il y en a, ouais. J'ai eu une manageuse comme ça, qui était très... tout devait être chaleureux et positif et inspirant. Elle disait ce mot,
ouais.
vraiment. Et elle y croyait vraiment. Non, mais le truc, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que...
C'était chez Slate ?
Non. Il y a ce truc un peu dur, c'est vrai, parce que moi, en fait, j'en écoute des podcasts comme ça. Par exemple, le podcast dont on parlait, c'est Nouvelle École, où Fibre ouais. Tigre est intervenu. Excellent. Ça peut vraiment être intéressant quand t'as vraiment le parcours de quelqu'un qui te détaille l'histoire précisément, où t'as vraiment un retour de... d'expérience,
oui.
c'est horrible, je parle comme ces gens mais là où ça devient vraiment horrible c'est quand effectivement c'est résumé en 3 bullet points sur un truc et que ça devient des motos et je pense que comme les gens en ont besoin et que ça marche, bah, c'est que tout con quoi. C'est le truc du web, quand ça marche on reproduit et du coup ça en fout partout sur l'internet.
Est-ce que du coup le développement personnel ça ressemble énormément à beaucoup de syndromes comme tu dis Mélissa, des messages très courts et très clairs et des raisonnements vite faits de comptoir à la Twitter. Le fait d'avoir une pression sociale d'être toujours mieux et meilleur que les autres qu'on a vu sur Facebook et Instagram, la culture d'entreprise aussi, la culture de la weed professionnelle qui est LinkedIn, est-ce que cette culture de la routine et du improve yourself, etc., c'est un peu l'enfant de tout ça, de toutes ces cultures numériques qu'on n'aime pas d'ailleurs?
Bah, moi j'ai l'impression d'être un de ces gars-là, quoi. Non mais parce que
t'as participé à Nouvelle École.
Non, mais j'ai participé à Nouvelle École, mais en plus, moi j'évangélise sur ma technique d'Excel. Et qui marche très bien. D'ailleurs, par exemple, Camus utilise cette technique maintenant. Et effectivement, aujourd'hui, j'en suis devenu un petit peu l'esclave. C'est-à-dire, je suis devenu esclave de ma propre rythme de vie. Mais ce que je voulais dire par rapport à... Regardez la vidéo, quand même. Il a vraiment des yeux...
La vidéo
de Maxime Barbier, là.
D'accord.
Parce qu'il a des petits yeux très fatigués. Et franchement, si vous coupez le son et que vous savez pas qui est ce mec, vous dites ce mec-là est en souffrance. C'est-à-dire que ce mec-là va peut-être se suicider, tu vois.
Est-ce qu'on peut remettre l'extrait, Ghislain, ou pas? L'énergie, il est absolument incroyable.
Salut YouTube Énergie, c'est Maxime Barbier. Et non, vous n'êtes pas dans le Daily Max parce que le Daily Max,
il est vraiment très dur. Hein.
Mais livre de fatigue.
Prendre quelques minutes avec vous dans mon dimanche pour vous parler de ma morning routine.
Le mec est au bout du rouleau.
Voilà, c'est ça. Il est au bout du rouleau et en fait, comment dire, LinkedIn, il faut bien
comprendre.
LinkedIn, là. Enfin, c'est vous. Enfin, on n'y va pas pour le plaisir. En fait, c'est un peu un repère de souffrance sociale parce que ce sont des gens qui sont au chômage. Ou en emploi, mais ils en cherchent un meilleur parce qu'ils sont en souffrance sociale. Et en fait, tu vas pas pour dire voilà pour montrer les photos de tes enfants, tu vois. Donc c'est la souffrance sociale. Et effectivement, les gens, ils essaient de, tu vois, ils sont au fond du trou et ils se disent ouais, regarde, tu vas t'en sortir, c'est bon, on va s'en sortir. Un peu comme les gens qui plongent dans la religion, sont des gens qui n'ont plus aucun.
Attention.
Plus,
oh, non, mais on invoque le nazisme, mais Jésus dans la chronique, je veux dire.
Non, parce que c'était son but, c'est de dire c'est des nouvelles religions. Ben quand t'es désespéré, tu parles à cet ami imaginaire qui est Dieu parce que t'as plus d'amis réels. Et ça marche comme ça. Mais c'est vrai. Mais moi-même, je me suis mis à prier quand j'étais dans le désespoir, tu vois. Et ça marche très bien la religion. C'est pour ça que j'ai vachement de respect pour les mecs qui prient parce que ça marche super bien. Voilà. Et c'est...
Je tiens à dire que Fibre hier m'a souhaité mon joyeux anniversaire de
professionnel.
Professionnel sur LinkedIn.
J'ai deux ans chez Qualité.
J'ai été très, très touché par ça.
Voilà. T'es à fond sur LinkedIn, Fibre, en ce moment.
Alors, tous les jours, effectivement, ça marche très bien.
J'ai une mort du quotidien.
Mais ce qu'on notera sur le profil LinkedIn de Fibre, c'est qu'il change à chaque fois de profession et que c'est un truc drôle. Donc, il nous fait du second degré, premier degré.
Plombier de Jérémy
qui fait grossir la communauté. C'est assez, c'est assez puissant.
Mais ils le prennent au premier degré ou pas sur la commune LinkedIn?
Alors, ils sont très premier degré, c'est horrible.
Ouais.
C'est, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à poster des messages premier degré, mais ouais, c'est un
donc
peu...
Tu fais ce qui marche, quoi.
Déjà, en fait, tu
reprends le schéma de notre ami Grégory Logan.
Ouais, c'est ça qui est triste, c'est que quand tu rentres dans un territoire où il n'y a pas d'humour, c'est que vraiment, soit tu as de la souffrance, soit tu as des gens bêtes, tu vois. Mais quand les mecs, quand tu n'es pas dans le second degré, c'est que vraiment, il y a un problème. Et LinkedIn, il n'y a pas trop de second degré. Ça ne marche pas trop, quoi.
Daz. Tu voulais dire un truc, mais... Comment ?
Non, en fait...
Je crois que tu voulais dire un truc, mais...
Ouais, non, mais le truc de base, ce que Sylvain a expliqué aussi, c'est que si t'arrives plus à faire le distinguo entre le vrai produit et la parodie, c'est que le vrai produit est nul à chier.
Oui.
Et le problème de ça, c'est que moi, perso, tu montres un vrai Grégory Logan ou ses multiples parodies, pour moi, c'est les mêmes.
Bah, c'était le grand jeu ces dernières semaines.
Ouais, justement.
Une fameuse parodie, t'arrives plus à savoir si c'était une parodie...
Voilà, donc c'est que de base, c'est-à-dire que le concept est foutu, enfin, c'est
ou alors t'es face à un film culte, ou un truc qui touche au divin.
Non, je pense pas, parce que t'arriveras toujours à faire la différence sur un truc culte. Et la vidéo de Maxime Barbier, donc je me la suis infligée. J'ai pas particulièrement d'animosité pour ce brave garçon, même s'il fait de la merde. Mais le concept en fait de la morning routine, je me dis pourquoi pas. Ok, le mec sait pas faire son lit, il y pense pas, il sait pas préparer son jus de citron qu'il boit lui-même le matin. Ok, il a besoin de faire du management visuel dans sa chambre. Ok, admettons. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est quand tu vas un peu plus loin, parce que la vidéo dure 9 minutes, c'est un supplice. Quand tu vas un peu plus loin, tu comprends que le type, en plus, donc remplit son 5 minutes journal, qui est aussi un concept que je trouve débilissime, mais ok.
Ah, moi j'aime bien.
Et ensuite, ça m'étonne pas. Et ensuite, il agrège la data et il est capable de te dire que, sur le mois écoulé, je n'ai fait que 13% de mes vidéos YouTube et je me sens pas bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait tout ça.
Il
pour après faire du quantified self, ce qui est pour moi la fin de la vie en fait, c'est-à-dire
et
que. Mais c'est fou. Enfin,
j'ai l'impression d'écouter un peu de la routine de Fibre.
Bah ouais, moi personnellement, je fais du quantified. Enfin, je fais la même technique que Maxime Barbier, mais pas. On n'a pas le même Excel, mais on a
la même passion.
C'est ça. On a la même passion. Et effectivement, le problème, c'est que Daz, quand t'es pas salarié. T'es obligé de salarier ta vie, d'être ton propre salarié, d'avoir ton emploi du temps et d'avoir.
Quel est l'intérêt de pas être salarié du coup ?
Non mais attends, à quel moment dans ta vie professionnelle c'est intéressant de noter tes orgasmes sur 6 ?
Mais alors je vais pas revenir là-dessus.
Bah si, reviens-y parce que ça m'intéresse de savoir en fait à quel moment.
Parce que le but c'est d'avoir que des 6, tu comprends ? Je veux dire, t'as des gens.
D'avoir que des 6 sur un barème que t'as toi-même écrit.
Mais j'exclus pas que, comme Maxime Barbier, je sois en souffrance, tu vois.
Dis-moi énergie pour voir.
Énergie.
Ouais, t'es en souffrance.
Mais par contre, je dors beaucoup d'heures par nuit. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est un peu comme les voyants qui gagnent jamais au loto. Eh ben, les coachs en énergie ou en inspiration sont souvent des gens
malheureux.
Ouais, des losers, quoi.
On pense tous à Tom Cruise dans Magnolia, qui était cette sorte de coach pour Mal Alpha, qui était lui-même.
Voilà. Mais voilà, en fait, effectivement, ne serait-ce que la démarche qui dit qu'un jour tu deviens coach en inspiration, c'est forcément que tu t'es dit, dans la vie, tu as des problèmes psychologiques et tu t'es dit comment les résoudre. Et ok, j'ai une méthode et ok, je m'en suis soi-disant sorti et je vais le partager aux gens. Mais en gros, voilà.
C'est pour ceux qui s'improvisent coach. Mais en fait, les Maxime Barbier et compagnie, ils ne s'improvisent pas forcément coach. Ils disent juste, regardez, c'est comme ça que je fais, c'est la bonne technique. Et c'est pas, il y a pas forcément une vocation à.
Mais ce qui est drôle de beaucoup de gens qui s'auto-convainquent et qui décident que leur méthode est la bonne.
Personnellement, ma méthode, je la trouve excellente. J'aimerais que tout le monde l'utilise. Elle est trop bien.
Ce qui est bien, c'est que tout ce que tu dis, t'as une illustration face à toi.
Ouais,
et ça, c'est très pratique. C'est très
ouf.
Je voulais juste, avant qu'on passe la parole au public, sortir de LinkedIn et aller dans d'autres réseaux qui, en fait, j'ai l'impression, pratiquent énormément ce côté gourou machine, notamment Instagram. J'ai l'impression que sur Instagram, dès qu'une personne fait un selfie d'elle un peu sexy, qu'elle a rien à mettre, elle va mettre un motivational poster, genre réveille-toi chaque lundi comme si c'était un dimanche, qu'on a des socialites families, qu'on a toutes ces choses et ces injonctions à être meilleures, ces injonctions à croquer la vie à plein dedans tout en travaillant sans avoir l'air de travailler, tout en se levant plus tôt, en étant plus en forme comme si on avait mieux bossé. J'ai l'impression que Link et Geek est la partie immergée de l'iceberg, mais qu'il y a quand même très très gros derrière, avec notamment Instagram, de manière plus light et moins évidente que les gourous d'entreprise qui vont essayer d'être des coachs inspirants, mais qui, au-delà de 3-4 stories, posts, etc., continuent à valider ce truc avec les 3 conseils, les 3 motivationnels non-stop, quoi, qui mettent une pression
fou. C'est hyper juste et ça, c'est encore plus intéressant parce que ça touche à la mise en scène visuelle et ça me fait penser au post sur, je sais plus, c'était dans le New Yorker, je crois, sur Van Life, hashtag Van Life, où t'as des super photos de mecs sur la route qui vivent.
On rappelle Van Life.
C'est des gens qui vivent dans des vans et qui sont complètement bohèmes et dont la vie est absolument parfaite, ils sont beaux, bronzés, ils vont dans des endroits absolument fantastiques. Sauf que t'as pas besoin de raconter, si t'as déjà fait un petit peu de camping-car et un petit peu d'itinérance dans ta life, tu sais que quand t'es en van, tu fais caca parfois au bord de la route, que tu te laves pas pendant 4 jours, que c'est la merde. Et il y avait une super chanson parodie où les mecs finissent par crever la dalle parce qu'ils trouvent pas à bouffer, qu'ils ont plus de thunes et tout. Et effectivement, c'est des images magnifiques, mais la réalité qui est derrière, elle est plus triste que ça, quoi.
Et les gens se convainquent de leur vie, à ton avis aussi? Un moment.
Parce que je pense que
côté gros, c'est le côté, tu vois, je vais convaincre les autres parce que la première personne que je vais convaincre, comme disait Philippe, c'est moi-même. En fait.
Je pense que comme les gourous, si t'es pas convaincu toi-même du truc, tu peux pas le faire en fait. C'est pas possible. Si tu remets le truc en question, tu peux pas y aller autant à fond qu'eux ils y vont.
Fibre. J'ai une anecdote personnelle qui va être pas trop longue, je vous promets. Un jour, j'étais au Mans et c'était horrible. Et vraiment, non, mais j'étais au Mans à 23h30, j'attendais un train pour retourner à Paris. J'avais fait une dédicace de livre jeunesse dans un endroit avec des vieux et. Voilà, c'était vraiment, j'étais au plus bas de ma life, je m'aidais de me disputer dans ma vie personnelle, j'étais au plus bas de ma life, et je suis dans le train, et à côté de moi, il y a une femme qui dit, je sens que vous êtes pas très bien. Et qui était cette femme ?
Attention, 3, dans le storytelling, t'es en train de faire ce que Sylvain nous a appris pendant la chronique.
Qui était cette femme ?
Une Waffen-SS.
Je suis psychologue en thérapie du comportement. Et elle m'a dit, ce qui est très important dans ma vie, c'est méditer, ce que je fais.
3.
Et elle m'a dit, ce qui est très important, c'est la pensée positive, tu vois. Et donc, en gros, la pensée positive, c'est exactement ce que pratiquent les Instagrammeurs. C'est-à-dire que tu dis un truc méga positif tout le temps. Et effectivement, quand tu fais ça tout le temps, tu t'auto-hypnotises, genre méthode Coué, et t'es tout le temps heureux, bien. En fait, en gros, c'est bien, mais c'est comme la drogue, dès que t'arrêtes, la descente est hyper dure, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop le pratiquer non plus, la pensée positive. Mais je comprends complètement, enfin, encore une fois, ce sont des gens qui sont en souffrance pour des raisons X ou Y, qui pratiquent la pensée positive, et en plus ça leur apporte des likes, donc ils sont dans un tourbillon de vertueux,
la dopamine,
mais très fragile. Voilà, voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, sur ce côté alors, tout à l'heure, Fibre parlait avec une grande ellipse, mais qu'effectivement, des gens qui sont généralement en difficulté dans leur vie se raccrochent à des repères. Alors, ça peut être la religion, ça peut être la pensée positive, ça peut être le développement personnel. Est-ce que tout ça, ça relève de la même mécanique, sauf que ça se distille à travers des réseaux, finalement? Est-ce qu'on est sur la même mécanique d'auto-persuasion, de personnes en détresse qui vont aller chercher ça, qui vont s'embrigader plus facilement?
Là, c'est plus facile à consommer, Instagram. Enfin, les photos, tu te dis, oh, c'est facile, tu fais ça avant de te coucher et tout. Mais en fait, c'est hyper oppressant. Ouais. Moi qui travaille en ce moment beaucoup, j'ai l'impression que tous mes amis sont en vacances. Alors que clairement, ils ne sont pas tous en vacances. Vous n'êtes pas en vacances. Ça te met une pression totale, tout en étant « ouais, tout va bien, tout est beau ». Et du coup, même moi, quand je le fais, je me mets dans le même mood, alors qu'en vrai, si je partageais la vraie vie, mais on en a déjà parlé dans 404, ouais, ce serait autre chose.
Mais comme il disait dans Vice Versa de Pixar, il faut de temps en temps être triste, sinon tu n'es pas équilibré. Voilà.
Mais personne
tristesse
ne montre.
Est nécessaire.
Oh, Pixar.
C'est beau ce que tu dis.
Mais après, si tu montres que tu es triste sur les réseaux sociaux, on va te taxer de attention whore ou de choses comme ça, quoi.
Donc tu as le droit de montrer que tu es plus heureux que tu l'es, mais tu n'as pas le droit de montrer que tu es triste.
Ouais, parce que les gens pensent que c'est un calcul. En fait, quand tu montres que tu es heureux, tout le monde sait que, ouais, ok, ils se la racontent, voilà, ça fait partie du storytelling. Après, quand tu es triste, les gens se disent, bah, là, il veut des likes, en fait.
Pourquoi les gourous et les tryhards du bien-être et du je suis super se font. Ils sont grillés, comme tu dis, ça se voit que c'est calculé, mais ils sont peut-être moins alpagués par Sylvain, méchamment, alors que les gens qui seraient en train de faire gna gna gna, tout va mal dans ma vie, aimez-moi, etc.
Parce que là, on parle du petit microcosme parisien qu'on connaît, et tout le monde se dit que, bon, ok, on critique Maxime Barbier, mais s'il nous embauche sur Minute Buzz, peut-être que ça peut le faire. Donc,
qui nous sponsorise, si tu nous entends.
Si un jour d'as, tu travailles pour Minute Buzz.
Non, bah, écoute, on disait ça de Webedia, et regarde-nous. Hein. Tout arrive. Hein.
Est-ce qu'il y a une personne dans le public qui voudrait réagir par rapport à ça, qui a vu ce genre de message, qui a tenté, peut-être, d'avoir des morning routines, ou des miracle morning, on appelait ça aussi? Le fameux Miracle Morning.
Tu te lèves à 3h du mat.
Tu te lèves à 3h du mat, donc forcément,
ça fait une journée entière. Ou si vous suivez ma technique de l'Excel magique.
Ou si vous avez écouté Nouvelles Écoutes, qui je trouve est un podcast très intéressant.
Nouvelle École.
Nouvelle École, pardon.
Nouvelle École.
Nouvelle Écoute. Alors, il y a 3 mains qui se lèvent là, donc on va y aller. Venez, venez, et puis on va vous passer le micro. Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Max.
Kalitos, Kaliteros, Kalita.
Kalitos.
Kalitos.
Ok. Défoncez-le.
Applaudissements timides. Ah, merde. J'ai entendu des.
En fait, j'ai pas très bien compris l'objet de la chronique. C'était, je voulais savoir si c'était plus sur le problème du développement personnel, LinkedIn et tout ça, ou sur la question de la mise en scène de sa propre expérience. Et en fait, je voulais venir sur l'importance du storytelling, parce que quand on veut raconter une histoire, ça peut être un sujet hyper important, profond, etc., qui peut être appuyé par des choses très quantitatives. Quand on s'appuie sur un truc un peu personnel, ça peut aider au storytelling et ça peut apporter un message, ça peut renforcer le message. Donc je m'écarte un peu du sujet LinkedIn, mais je trouvais ça intéressant.
Non, c'est vrai que c'est un truc qui flotte un peu. C'est, y a-t-il des gens aussi qui sont peut-être sincères et qui sont juste sincères dans ce qu'ils font et qui apportent peut-être quelque chose de bien ?
Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ça frise limite avec l'arnaque parfois. C'est limite des con-artistes en fait, les mecs qui utilisent vraiment les histoires perso pour faire passer des messages qui peuvent être enfin qui sont pas des vérités en fait, et donc c'est ça qui est dérangeant et qui utilisent le storytelling pour ça, donc c'est ouais, donc effectivement ça rejoint tout à fait le storytelling. Ouais.
D'accord, très bien.
Moi je pense que tu peux pas être sincère quand t'es en train de monter ta vidéo YouTube, tu vois, que t'as découpé tes séquences, que t'es en train de te prendre la tête pour faire un message impactant. Je pense que t'es dans le calcul, en fait. Si les mecs étaient sincères, ça serait ils le feraient en live, en fait. Ça serait pas une vidéo YouTube, ça serait du streaming, tu vois. Ils diraient, voilà, c'est moi. Et le fait que, après, je sais pas, les types vont prendre le temps de faire le montage, l'étalonnage, etc., tu te dis, tu perds la spontanéité du message.
Répéter une scène 5 fois.
Ouais.
Énergie. Ah merde, j'ai refait.
Énergie,
c'est Maxime. Ah,
bonjour.
Bonsoir. Alors moi déjà je suis très content que vous ayez parlé de Greg, parce que moi je l'ai découvert sur...
Alors on parle de Grégory Logan.
Grégory Logan, tout à fait. J'ai découvert sur une page qui s'appelle les FDP de LinkedIn.
Et pas Grégory.
FDP pour Fred Port, comme tout le
monde. Ah oui,
bien sûr. Et par rapport au motivational, il y a un truc aussi dont j'ai pas l'impression que vous avez parlé, mais qui moi me parle pas mal, c'est le fait que le motivational c'est super déceptif. Je pense à Casey Neistat et son Do What You Can't. Et en fait,
Casey Neistat, on le rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, un célèbre vlogger sur YouTube.
Ouais, c'est
Do What You Can, c'est pas le slogan de Samsung ou de Huawei, ça ?
C'est le slogan d'un peu beaucoup de monde en ce moment.
Ah, d'accord.
Et, ouais, de Jack Roper qui s'est fait tatouer Make sur la main. Et, mais qui fait des vidéos incroyables. Hein, mais le truc, c'est que c'est hyper déceptif parce qu'au final, les gens vont se dire ouais, c'est génial, lui, il arrive à tout faire. Et en fait. Je me mets avec un papier et un crayon et je suis là, genre, en fait, j'ai dessiné une bite, quoi.
Je peux te faire tatouer une bite sur la main à un mec de l'autre.
Casey Neistat, moi, je le mets aussi dans cette catégorie-là, quoi. Effectivement, ouais.
Casey Neistat qui inspire beaucoup de gens, d'ailleurs.
Il est très inspirant.
Ça serait pas le syndrome GoPro, en fait ? C'est-à-dire que tu vois GoPro, tu vois les vidéos.
C'est génial.
C'est génial, t'en achètes une et tu te rends compte que t'es nul.
Ouais. Tu l'as mis une fois sur ton vélo, putain, mon trajet, c'était de la merde.
Mon ride était nul à chier, en fait. Bon, ben, j'arrête.
Oui, alors, mais ce que je me dis, alors, ce qu'on a eu dans le public, on n'a pas eu votre prénom, monsieur. Vous êtes parti tel un Anonymous.
C'est Arthur.
Arthur.
Voilà, Arthur. Ce qu'a dit Arthur, c'est intéressant parce que est-ce qu'on est en train de condamner ces gens parce qu'on est des gens plutôt bien dans notre peau aussi ?
Ah.
Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas méprisant de notre part, en fait.
Ah bah ça, si. Parce que tout à l'heure, très certainement.
Fibre en parlait de manière...
Ah oui.
Ah d'accord, c'est bon, je suis rassuré.
Oui, c'est bon. Ah non, mais il y a de la condescendance et du mépris, énormément, toujours en moi.
C'est vrai que normalement...
On rappelle un 404 de tradition, il y a des traditions à respecter.
Il y a des traditions.
Un Lamua aurait dit, bah écoute, ce garçon, ça lui fait plaisir, laissons-le, quoi.
Exactement.
J'aurais dit ça un peu ce qu'il vient de dire.
T'aurais dit ça à l'enregistrement. Après, en off, t'aurais dit des trucs horribles, mais
n'importe quoi. Bonsoir.
Salut. Pour revenir un peu sur ce que tu disais quand tu parlais un peu de l'injonction à la performance, que c'est un peu ça qu'on décrit là, moi il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait ça dépasse un peu le cadre de juste des mecs sur YouTube et tout ça qui parlent de ça, c'est un peu que ça devient aussi une culture un peu en général de société, et qu'en fait c'est aussi encouragé par des choses comme des startups et tout ça, parce qu'il y a des startups aujourd'hui qui proposent exemple, des bandeaux pour t'aider à dormir et donc dormir peut-être moins. J'ai découvert aujourd'hui une startup qui s'appelle Feed qui fait genre de la bouffe lyophilisée pour t'aider à manger en 10 minutes et ensuite ranger tes trucs. Et voilà, en fait, est-ce que ça dépasse pas juste le cadre de mecs, de gourous comme ça, et qu'en fait, on n'est pas en train de se diriger vers quelque chose qui est un peu plus effrayant, qui est l'injonction à la performance, mais au niveau sociétal.
Sylvain, est-ce qu'on revient peut-être aussi à cette, la, la petite culture startup Silicon Valley de l'impossible, le fameux do what you can't, genre dors mieux et moins,
c'est ça, c'est
moins.
Et puis make fast, break things, le motto de Google, tous les trucs comme ça qui sont effectivement une injonction à l'hyper productivité, au fait que bah, en fait tu vas tout donner pour ton entreprise, tu vas pas dormir, etc., comme dans le dernier épisode de Silicon Valley, si vous l'avez
mais
vu.
C'est très sexy ces slogans, en fait.
Mais bien sûr,
mais je pense
que c'est de l'aliénation
c'est
totale,
toujours
en fait.
Positif, donc personne peut dire ah non c'est horrible, mais en fait vraiment c'est, mais là il y a quand même quelques bouquins et quelques gros papiers sur la culture startup qui sortent, qui disent c'est l'enfer, quoi.
Il y avait des articles qu'on a utilisés pour la préparation de ce 404 qui était Improve Yourself jusqu'à que tu t'en crèves, quoi, quasiment.
Je crois pas que ce soit vraiment des gens très productifs qui fassent ces choses-là, parce qu'ils en font beaucoup et du coup, c'est pas très productif pour d'autres activités. C'est-à-dire que quand t'as vraiment du taf, t'as pas le temps d'écrire tout ce qu'ils écrivent. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Tu peux pas, si tu travailles autant que moi, tu critiquerais pas comme ça. Hein.
Non, toi, si tu travailles autant, t'aurais pas le temps de critiquer.
T'aurais pas le temps de critiquer. Mais c'est vrai, Grégory Ligat, c'est paradoxal parce qu'il fait c'est de l'injonction au faire. Il passe sa journée à écrire, arrêtez de parler, faites. Et lui, c'est complètement paradoxal quand même.
C'est génial. Bonsoir, mademoiselle.
Warion.
Bonsoir.
Coucou.
J'ai une petite question sur l'impact en fait de ces gens-là et les dangers qu'ils peuvent représenter. Parce qu'en gros, j'ai ma mère qui est devenue un peu, qui s'est fait engrainer complètement, qui passe sa vie à regarder des vidéos comme ça, qui a effectivement des bullet points sur son frigo, des trucs comme ça, pour faire des choses. Mm-hmm. Et comment on fait pour faire comprendre à ses proches qui se font engrainer comme ça que c'est du bullshit et qu'il faut faire attention.
Est-ce que ça la rend plus heureuse et est-ce qu'elle fait plus de choses ? Si c'est oui, c'est pas du bullshit.
Non, mais comme tu dis, ça peut te rendre plus heureux tant que t'es dans ce rythme-là, et si à un moment tu te décroches, c'est...
Pour l'instant, oui, je pense que ça la rend plus heureuse, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu artificiel et qu'à un moment, elle va retomber sur Terre et que ça va faire bizarre.
Bah, à la base, la religion, c'est fait pour rendre plus heureux. Voilà.
Il suffit juste... je ne sais plus qui disait ça, c'était Lao Tzu ou Confucius qui disait qu'il fallait juste être patient pour voir le cadavre de ton ennemi passer dans la rivière.
Mais ça, c'est Grégory Logan, ça.
C'est Grégory Logan aussi. En fait, c'est juste ça. Faut laisser les gens s'épuiser eux-mêmes.
Mais non, mais tu vas pas dire ça à une dame qui dit ma mère est en détresse.
Mais non, mais parce
attends
que non,
attends
au
qu'elle flotte dans une rivière.
En fait, tu vas aborder le truc comme quelqu'un qui essaie de priver une autre personne de quelque chose qui la rend heureuse. Donc, faut la laisser. Et puis, au bout d'un moment, naturellement, elle va en crever, tu vois.
Non, tu sais pas le problème des religions. C'est-à-dire que naturellement, elle va faire des vidéos YouTube en disant voilà, j'ai fait des bullet points, ça, elle va être là, en évangéliste, mais c'est normal.
Oui,
mais
sauf
si elle est heureuse,
quand tu mets des vidéos sur YouTube, le but c'est d'avoir des vues, c'est d'avoir du feedback positif, et quand elle verra qu'elle n'en a pas, arrivera le moment de doute que toi aussi tu te poses, par exemple, quand tu fais des jeux qui sont assez spéciaux.
Ça arrive.
Tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi est-ce que je m'inflige mon jus de citron tiède
mais
à 4 heures du
soir ? Pourquoi je fais mon lit sachant que je défrai le soir ? C'est vraiment. Mais je vais même te dire plus loin que ça. Pourquoi vivre sachant qu'un jour on va mourir ? Je n'ai jamais.
Oh là là.
Et ça, je pense que c'est le podcast de Louis.
Mais tu veux que je te raconte une vraie anecdote à la Maxime Barbie ? Un jour, j'avais 19 ans, conférence de philo dans mon école qui dit pourquoi vivre sachant qu'on va mourir ? Et moi, je fais la philo, c'est débile. Et j'y suis pas allé, et j'ai pas dormi de la nuit, et j'y pense, et j'aurais dit, et je sais pas ce qu'il a dit dans cette conférence, et je regrette, toute ma vie, j'ai regretté, je dis, effectivement, pourquoi vivre, sachant qu'un jour on va mourir, j'aurais bien aimé avoir la réponse, si vous l'avez, ça m'intéresse. Voilà.
Voilà.
Trois. Vous le dites dans les commentaires. pour répondre à ta question, tant que ça devient pas dangereux physiquement, surtout financièrement.
Mais comment tu le sais aussi ?
Ouais, bah,
parce que tu finis par acheter tous les bouquins qui passent, tu finis par acheter les e-books du mec sur YouTube.
Oui, mais c'est toujours pareil. Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que la zone grise, elle est vraiment très grise. À quel moment t'as acheté la semaine de 4 heures et t'es content de l'avoir lu ?
La Cortoltech.
Et à quel moment t'es en train d'harceler tout le monde, ta famille et tout, pour dire, tu vois, comme les gens qui ont commencé à maigrir ou faire du sport et t'es en train de les harceler parce que t'as découvert la lumière et que t'en peux plus. À quel moment t'es en souffrance ? Tu vois, la tirette de la normalité.
Quand les gens te disent, tu saoules.
Ouais.
Comme les gens qui sont passés sur Macintosh et qui te pètent les rouleaux à te dire que c'est l'OS du futur et que c'est génial et que tu devrais le faire, je comprends pas que tu t'infliges encore Windows. C'est exactement la même dynamique, c'est la personne tombe sur un truc qui l'inspire énormément et elle est euphorique et du coup elle se dit qu'elle était dans l'erreur et qu'elle doit absolument convertir d'autres gens et ça c'est les témoins de Jéhovah qui font ça.
Ou t'es jogger à la Cogip.
Faut les laisser s'énerver, hein.
T'es jogger à la Cogip.
Les joggers de la Cogip qui ont l'impression d'être cool parce qu'ils courent à midi, mais non, c'est pas ça la vie en fait. Si vous étiez pas cool avant, vous le serez pas après, arrêtez. J'essaie de leur faire comprendre
j'aimerais
ça.
J'aimerais trop avoir des motivationales de Daz. C'est avec la tête
vous
de Daz.
Pas cool avant.
Vous étiez pas cool avant, c'était pas cool après. Voilà.
Pourquoi ? Non, mais c'est vrai. Je vois Maxime Barbier, je vois les runners de la Cogip et je me dis déjà, On revient dans un an, est-ce qu'ils courront toujours? Est-ce que Maxime Barbier sera encore en vie? Je ne sais pas.
Ça, c'est un peu comme les résolutions du premier de l'an. Hein.
Ouais. Ouais, alors, juste pour terminer, je vous troll, est-ce qu'on n'a plus le droit de se donner des conseils, des bons conseils? Enfin, encore une fois, avec Mélissa, je pense qu'on est d'accord sur la fameuse tirette, à quel moment c'est trop, à quel moment c'est pas assez, à quel moment quelqu'un qui dit, mais en fait, tu devrais vraiment arrêter de manger du gluten. Tu vois, ça devient toxique. À quel moment quelqu'un qui dit, mais franchement, effectivement, je me lève avec le soleil maintenant, et en fait, j'adore, c'est génial, je fais des meilleurs réveils. Tu vois, à quel moment quelqu'un qui a envie d'être peut-être empathique, ou d'être bon avec toi, ou de partager quelque chose sincèrement, à quel moment ça devient toxique ?
Eh bien, je pense qu'il faut faire la différence entre la répétition et le martelage, comme en publicité.
Ouais.
C'est-à-dire quelqu'un qui te répète 2-3 fois que fumer, c'est pas bon pour toi. Quelqu'un qui te le martèle tous les matins quand tu fumes ta clope, là, par contre, c'est
chiant.
Il est
un peu en manque.
j'ai repris la clope au Japon, c'est pour ça.
Bon, très bien. J'espère. On en parlera sur le forum. On en parlera sur le forum d'Az ou pas ? On a un forum ?
Inch, Jésus et tout ce que vous voulez. Ouais, on a un forum. C'est juste qu'il n'est pas accessible, mais il est là. Il vous regarde, il attend dans l'ombre. Il est bien.
Ce que vous pouvez faire, c'est vous écrivez sur du papier en attendant.
Prenez des photos.
À 5h du matin. Et on vous rappelle que sur le forum, nous avons un très beau topic avec les plus belles paires de Link Geek. C'est un très beau moment. Allez, on attaque tout de suite la première FAQ. Où est Bob ? Bob est ici.
À Bob le Nantais.
Je crois que c'était ça la FAQ.
Tac. Qu'est-ce que vous auriez aimé connaître, mais que vous ne pourrez pas, car vous mourrez trop tôt ?
Je vous rappelle que nous allons tous mourir. Ça, c'est le plus grand enseignement de philosophie que Phil nous a appris. Alors, peut-être l'automobile autonome, vu que ça arrivera dans 50 ans, selon certains.
Dans 150 ans.
Dans 150 ans, selon d'autres, selon la police.
Je vais voir Mars.
Voir Mars.
Le sol de Mars, pardon.
Tu penses que tu le verras pas ?
Non, je pense pas.
Ok.
Mais on l'a déjà vu, le sol de Mars.
Non, mais je veux dire, fouler le sol de mes pieds.
Ok.
Les jeux vidéo m'apportent beaucoup de bonheur. Et je sais qu'à un moment, je mourrai et je ne verrai pas genre Zelda Breath of the Wild 3 ou le prochain Elder Scrolls ou le Red Dead Redemption 6 ou Elite 4. Et ça me rend vachement triste parce que je sais que j'aurais kiffé y jouer. Voilà.
Très bien. Mélissa ou Daz, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que vous ne verrez pas ?
Ouais, moi c'est... Vas-y Mélissa. Ouais.
Mélissa ?
Un monde où tout le monde sait se servir d'Internet.
Oh la monomaniaque.
L'aveu de défaite.
Attends,
quoi.
Attends, un monde où le mail serait compris par tous. Avec Mélissa, les best practices du reply.
T'as une espérance de vie de 80 ans, 85 ans. Franchement, en 2060, c'est bon. Tout le monde va utiliser Internet.
Il y a des gens qui ne savent toujours pas faire la différence entre des faits.
Mais ils seront morts d'ici là.
Il y en aura d'autres. C'est ça le cercle de la vie.
Daz ?
Ouais, moi je rejoindrai Sylvain, mais pour aller un peu plus loin, genre un autre système stellaire en fait. La conquête spatiale, la vraie conquête spatiale, et pas juste.
Mais c'est que des cailloux, hein. Je vois pas l'intérêt. Mais, bon.
Mais t'en sais rien.
C'est rien de primaire que tu nous as fait.
C'est clair.
De cours de récré.
Non, mais tu sais pas en fait. Justement, c'est ça qui est intéressant. Autant tu vois, aller sur Mars, je comprends que ça fasse pas rêver parce que c'est comme la région lilloise, mais en plus tu peux pas respirer. Donc c'est comme la région lilloise en fait.
En orange.
Mais partir quelle plus gratuité. Loin, ça pourrait être intéressant ouais, quand même.
Très bien. Genre la région, la Belgique.
Une vie extraterrestre alors.
Une vie extraterrestre.
Non. Que nous, on aille foutre la merde ailleurs, mais non, s'il te plaît.
Tu sais, je suis sûr que demain, si tu vas sur Proxima du Centaure, tu sais ce que tu feras, tu checkeras tes mails. Donc,
tu poseras un Instagram.
Ah ouais, c'est ça. Tu vas regarder Twitter. En fait, tu vas être à 5%, 10%, 15%. À un moment, tu seras à 30% dans le monde d'avant, tu vois.
Mais peut-être, mais juste pouvoir le faire, pouvoir le voir.
Franchement, si j'arrive chouette. Sur Proxima du Centaure et je check mes mails, je suis vraiment très triste. Je suis vraiment très triste. Bon, allez, Fibre, tu vas prendre le relais car nous attaquons la deuxième chronique. Et oui, c'est vrai, tu as une chronique, vrai. Fibre. Ça fait 5 ans maintenant que tu as des chroniques, tu sais. T'es prêt ?
Je l'ai rendu il y a tellement de temps que je ne sais même pas de quoi le parler.
Oh là là. Ma morning routine, je me lève à 3h du matin et j'écris une chronique au pif en espérant la placer plus tard sur 404. Allez, c'est parti.
Sujet numéro 2.
Et votre communauté, elle se la joue good cop ou bad cop ?
Imaginez que vous vous rendiez dans un magasin de bricolage de province et vous disiez au vendeur « Je cherche un dispositif ou un outil ou une méthode pour enfoncer des clous dans une planche. » Naturellement, le vendeur va vous dire « Mais ce que vous cherchez, monsieur, s'appelle un marteau et voici le rayon à en acheter. » Mais imaginez qu'au lieu de répondre à cette phrase complètement normale, le vendeur vous dise « Mais attendez, pourquoi vous voulez planter des clous ?» Ou alors « Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas trop le niveau pour être de nos clients. » Ou alors, « Attendez, vous me posez la question avant d'avoir regardé sur Google ?» Ou alors, « Attendez, votre voisin, il m'a posé cette question hier, vous allez lui demander. » Attendez, vous avez dit dispositif, mais qui prononce ce mot aujourd'hui ? Donc, je pourrais continuer des heures. Cette situation complètement folle, eh ben, elle arrive tous les jours sur des forums, sur Internet. Tous les forums ? Non. Il y a des forums où les gens sont polis, amicaux, et d'autres où ce sont des ordures insupportables. Jusqu'à présent, pour expliquer ces différences, on se réfugiait sous le concept de « la communauté », entre guillemets. Tel site a une communauté toxique, tel autre n'en a pas. Mais dans le fond, pourquoi ? Pourquoi il y a de la toxicité ? Pourquoi il n'y en a pas ? Je me suis posé cette question suite à une énième shitstorm concernant Stack Overflow. Stack Overflow, c'est le site de référence mondiale en ce qui concerne les questions et les échanges sur le code informatique. En gros, on reproche à Stack Overflow de se comporter comme notre vendeur insupportable. Et d'ailleurs, il se comporte tellement comme ce vendeur insupportable que seulement 5% des gens qui posent une question sur Stack Overflow reviennent un jour pour en poser une deuxième. Donc, il y a vraiment voilà, un écrémage. Et notre vendeur, maintenant que vous le connaissez un petit peu avec ses questions et ses réponses, est-ce que vous pensez qu'il est plutôt de gauche, de droite, d'extrême droite ? Eh bien oui, Stack Overflow a des problèmes d'inclusivité et il a une ouverture d'esprit préoccupante concernant le alt-right. Ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs de Stack Overflow se réfugient derrière ce qu'ils appellent les règles. Ah, vous n'avez pas respecté les règles, ma petite dame. Et en fait, effectivement, ces règles sont un problème. Stack Overflow aime les règles. Il y en a des pages entières. Une page entière, par exemple, sur le titre. La première règle concernant les titres, titre d'un poste, c'est formuler votre question comme si vous deviez déranger un collègue très occupé. C'est un programme.
La bonne ambiance.
Et il y a des achievements pour ceux qui dénoncent ceux qui contreviennent aux règles. Ça, en France, on adore ça.
C'est chaud.
Quand il y a des règles foisonnantes, on trouvera toujours une justification pour se comporter comme une ordure. C'est pour ça que des gars ont fait des croisades sanguinaires sur la base d'un texte qui disait, dans le fond, « Aimez-vous les uns les autres ». Certains d'entre vous pourront dire « Mais attendez, déformation professionnelle, les règles, c'est la vie d'un codeur ». Oui, mais il y a des contre-exemples. Contre-exemple concret, Nabil Homer est un étudiant en programmation mais d'un certain niveau qui veut devenir un chercheur informatique. Il existe réellement et le 30 mars 2016, il pose, petit malin, la même question, un peu technique, mais sensée. Alors, je vous la passe, elle traite de liens sur les kernels, j'ai rien compris. Mais il la pose sur Stack Overflow et sur un autre site de questions-réponses qui s'appelle Quora. Donc, sur Stack Overflow, la question a été effacée et son compte a été banni. Sur Quora, elle a eu deux réponses. Et il a eu des followers et sa question a été vue 900 fois. Les personnes qui lui ont répondu, chacun une réponse documentée de une à deux pages, bénévolement, sont l'un un chercheur informatique et l'autre un spécialiste de 20 ans en compilation logicielle. Mais alors, c'est quoi ce Quora où les gens sont si gentils ? Ben, c'est un site de questions-réponses généralistes qui est une sorte de paradis hippie où les trolls sont traités avec courtoisie et une inlassable patience. Alors pour tester, moi je me suis inscrit sur Quora sur le thème physique, la science. Et tous les jours, il y a des questions trollesques, volontairement ou non, de gens qui disent, par exemple, mon voisin est persuadé que la Terre est ronde, comment lui faire comprendre qu'il a tort ? Ou comment cet arbre peut être âgé de 8500 ans, sachant que dans la Bible, mon livre de référence, la Terre a été conçue il y a 6000 ans. Et tous les jours, hyper patiemment à ces réponses, des professeurs de physique, des spécialistes répondent hyper patiemment et démontrent la réalité de la science à ces personnes qui auraient été bannies normalement depuis longtemps sur d'autres forums. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi avec ce principe de base des questions à répondre, on se retrouvait d'un côté avec des nazis et de l'autre côté avec des hippies. Je dirais que, comme dans notre démocratie, le pouvoir de gestion de la communauté se sépare en trois aspects. Alors d'abord, il y a l'exécutif, c'est un peu les dirigeants du site. Donc c'est un peu le board de Webedia qui descend en sueur voir les modérateurs du 15-18 de jv2.com quand ils ont reçu les avocats de Nadia Adam. Ils sont en général déconnectés du problème communautaire, ils disent « débrouillez-vous », voilà. Et eux, et en fait, ce qui leur intéresse, c'est de faire rentrer de l'argent et ils gèrent le financier et le commercial. Donc ensuite, il y a ce qu'on pourrait dire le judiciaire, ce sont les modérateurs. On pense souvent que les modérateurs décide de la santé d'une communauté, mais regardez, dans Stack Overflow, les modérateurs, ils obéissent aux règles, ce sont des juges. Donc le problème viendrait du troisième pouvoir, le pouvoir législatif, les règles et les systèmes du site. Des règles qui ne consistent pas à dire « soyez bienveillants », c'est d'ailleurs pour cela que Facebook, Twitter, le 15-18 dérapent malgré la consigne « écoutez, soyez bienveillants hein », mais c'est le mode de fonctionnement de cette petite société. Alors, je donne un exemple qui... j'ai écrit la chronique entre-temps et la personne est revenue dessus, mais le 11 avril dernier, au moment où j'ai écrit cette chronique, le boss de Reddit, tout simplement, a dit que la liberté d'expression était très importante pour Reddit et qu'à ce titre, on pouvait être raciste sur Reddit. Depuis, il a fait un petit mea culpa.
Léger.
Voilà. Mais il l'a dit. Voilà. Et alors, il faut faire attention parce que qui dit hippie dit pas forcément laxisme, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'un site est accueillant que ses règles sont souples. Moi, par exemple, Fibre Tigre, je ne peux pas poser ou répondre à des questions sur Quora. Parce que la première règle pour créer un compte, c'est de le faire sous une identité réelle, avec un nom, un prénom, adjointe d'une biographie. Alors, elle n'est pas vérifiée, mais il ne faut pas avoir un pseudonyme. Alors, il y a d'autres communautés qui sont plutôt bienveillantes. Imager, NeoGAF. Alors, NeoGAF, c'est particulier, mais il a une modération plutôt sévère qui est concentrée sur le fait de supprimer les propos un peu malveillants. Je pourrais dire aussi Qualité, au moment où il y avait un forum. Le monde est un peu petit. Sur Qualité, le ton monte parfois, le trade sur le régime, par exemple, mais il redescend sans nécessité de modération, notamment elle n'est pas là, de toute façon.
On reçoit quelques flags de temps en temps.
Oui, voilà.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est des flags trolls, c'est-à-dire genre quelqu'un qui dit j'aime la pizza, l'ananas, bon bref. Alors moi, j'ai fait un peu le tour des sites bienveillants. Et j'ai essayé de synthétiser les règles qui sont sur les sites avec les communautés bienveillantes et qui ne sont pas sur les sites avec les communautés pas bienveillantes. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait une liste de règles et je vous propose d'imaginer un Twitter, un Facebook qui obéirait à ces règles. Et comme ça, il n'y aurait plus de cette toxicité qui parfois nous agresse et nous oppresse, sur Twitter notamment. Donc première règle, elle n'est pas jojo, hein, je vous le dis tout de suite, elle me pose problème, mais elle est importante a priori, pas d'anonymat. Si on veut s'exprimer, on peut lurker, mais si on veut dire quelque chose, ben, il faut le faire sous une identité. Pas de principe de downvote, c'est-à-dire qu'on ne met pas de pouce en bas, voilà, qui est un peu le Chanel de la haine sur YouTube notamment. Alors, on distingue clairement trois choses, la republication ou le retweet, le like et l'upvote. En gros, on peut aimer une réponse qui est amusante, like, un troll qui fait une petite blague, c'est un like, mais quand si la réponse est pertinente, c'est un upvote. C'est l'upvote, la pertinence, qui prédomine dans la hiérarchie des réponses. Donc, ça nous permet de mettre en avant les réponses donc sur la pertinence et également s'il y a des achievements qui sont basés uniquement sur les upvotes. Ce n'est qu'après avoir upvoté avec pertinence un certain nombre de posts que vous pouvez vous-même poster. Alors là, c'est encore plus méchant, mais effectivement, ça marche.
Ça donne tellement pas envie.
Ce n'est qu'après avoir 3 ou 4 personnes de la communauté qui vous ont accepté comme amis que vous pouvez poster. Par principe, les questions posées par les nouveaux venus sont traitées avec un soin particulier. Et enfin, la modération et l'usage veulent qu'on fasse moins référence aux règles qu'au bon sens. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal dans ces règles, c'est que effectivement, ça donne pas envie. Mais elle crée des communautés bienveillantes. C'est ça qui est paradoxe. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous dirait qu'il y a une charte genre de règles pour tous les réseaux sociaux et qu'on applique celle-ci ? Ou est-ce qu'il y en a qui ne vous intéressent pas ?
On peut applaudir Fibre Tigre pour ce portrait robot de la communauté. En gros, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut fliquer à mort pour se détendre derrière.
Ouais, ça ressemble ça. À un, les règles que tu as dit à la fin, ça ressemble à un club de gentlemen en fait. C'est de la cooptation. C'est,
ouais, j'allais parler de la franc-maçonnerie, mais ouais.
Oui, voilà, c'est un peu la même chose.
Club hein, ouais. Fermé.
Par contre, les règles du début, ça ressemble vachement à LinkedIn en fait.
LinkedIn.
LinkedIn, ouais, pardon.
Ouais, effectivement, c'est pas. Enfin, elles sont pas jojo. À titre personnel, par exemple, j'adore Quora le lire et j'aimerais participer parfois, mais Quora, je ne peux pas parce que je peux pas m'utiliser le nom Fibre Tigre, par exemple.
D'accord.
Donc c'est ce paradoxe qui est que pour que ça marche, le curseur, il faut prendre, si on prend les risques d'avoir nos usages un peu libertaires, on prend le risque d'avoir des communautés qui sont malveillantes.
Ouh, je pense qu'on va en revenir avec la chronique de DAS sur cette idée de retourner de certaines choses. Le forum de qualité, il n'y a pas vraiment de règle à part le bon sens. Tu parlais du bon sens, qui a l'air d'être une très mauvaise bonne idée, en fait, j'ai l'impression, parce que le bon sens, il appartient un peu à tout le monde et chacun dit que c'est le bon sens, non ?
Bah ouais, carrément.
Non ? Je sais pas, hein, tu m'as dit le bon sens, ça devrait prédominer. Mais...
En fait, le problème, c'est que Stack Overflow, dont j'ai cité qui pose un réel problème, parce que en plus, il a à la fois des réponses ultra quali, mais il a une communauté toxique. Eh bien, le problème fondamental, c'est que les gens, ils se réfugient derrière les règles, et les règles, on les interprète comme on veut. Or, une règle, elle peut être plus conne que le bon sens. Et c'est le bon sens, il doit surnager. Mais c'est, voilà.
J'ai un petit avis là-dessus.
Oui. Je
pense que le problème en fait, de Stack Overflow, c'est, ça a plus à voir avec le fait qu'il y a une concentration de personnes qui font la même chose. Et que pour avoir des avis un petit peu divers et variés, c'est important d'avoir un brassage. Donc par exemple, qualité, le jour où il n'y aura que des graphistes freelance, ça sera un enfer. Et Stack Overflow, les gens qui consultent, qui brossent ce site quotidiennement, c'est des devs, c'est des codeurs. Et on sait très bien que si tu fous que des codeurs, enfin plein de codeurs ensemble dans la même pièce, ça devient une boîte à cons.
Oui, mais
on le sait ça.
Ils ont pas un petit sujet sac, mode, chaussures, oh tout là ça là. Sur Stack Overflow.
Non, je pense pas. Ah, je pense pas.
C'est super méchant ce que t'as dit, mais en plus c'est fou puisque sur Quora, tu vas Quora/dev et t'as que des devs.
Voilà. Oui, mais en fait le site, c'est Quora, c'est comme Reddit. T'as des communautés de Reddit qui sont très toxiques. T'en as d'autres qui sont,
ils honorent ça à fond, hein.
Ultra ultra bienveillantes. Et en fait, je pense que c'est le fait d'être sous un chapeau Reddit qui permet quand même de se dire, ok, on est entre cons, mais c'est pas notre site.
Je pense que vraiment, tu dis l'inverse de ma chronique, c'est-à-dire que là, tu es en train de dire, il y a des communautés de cons, alors que ce que je dis dans la chronique justement, c'est que personne n'est con de base. C'est juste que quand tu es dans un système con, ben tu deviens con.
Non, moi, je pense sincèrement que quand tu mets que des personnes avec le même profil, oui, tu crées des communautés de connards, en fait.
Consanguinité intellectuelle.
Voilà. Ah. Ça s'appelle le Front National.
Voilà. Il parle de plein de choses, le Front National.
Non, mais c'est vrai. C'est aussi Brotopia, finalement.
Mais voilà, c'est exactement ça. C'est le même profil créé.
Donc, tu n'es pas d'accord avec Fib quand il parle de lui que le vrai fautif, c'est la législation.
Non, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est fibrotique en même temps. Donc, c'est très bien que.
Voilà. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de législation. Ouais. Parce que, en fait, la loi qu'on a dans la vraie vie, même si Internet c'est la vraie vie, c'est vraiment le Far West pour l'instant encore.
Ouais. Enfin, sur les forums, il y a des lois et au tout début des forums, il y avait ces modérateurs insupportables qu'on connaît qui disaient
avant de poster, merci de lire les règles.
Voilà, c'est ça. Mettez pas votre réponse au-dessus du.
Il y a toujours un petit temps d'adaptation, quoi. Il y a toujours des petits dérapages. Parce que vous parliez de bon sens, mais en fait, on peut tous vriller à tout moment. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est qu'on peut dire, oui, on a tous plein de bon sens et tout.
Mais le bon.
Et on sera les premiers à aller troller dans le super site que tu veux construire avec plein de règles, tu vois. Donc,
mais le bon sens, c'est aussi de quand on vrille, de dire, ah, le mec, il a vrillé une fois, ça va. S'il vrille tous les jours aussi.
Mais ça, c'est ton bon sens. Moi, mon bon sens me dira, le mec, une faute, il dégage direct. Le bon sens, c'est que le mec, il a fait une fois, il le fera deux fois. Par exemple, c'est pour ça que le bon sens, c'est un.
Par exemple,
un
sur le forum de qualité, où je vais très souvent, les utilisateurs.
Elle était drôle, celle-là.
Les utilisateurs les plus. Parmi les meilleurs utilisateurs, il y a aussi des énormes trolls qui sont aussi les plus actifs et
qui se sont réfugiés chez nous, d'ailleurs. C'est étrange, hein. qui ont été bannis de certaines communautés qui.
Parce que justement, on n'a pas atteint la taille critique pour commencer vraiment à être catalogué communauté de connards ou tu vois. Je pense qu'il y a, c'est la concentration et la masse qui crée le problème. Moi, si j'arrive sur un forum où effectivement il y a un thread qui est épinglé en tête du forum qui explique comment écrire le post en mettant poser votre question en gras souligné puis ensuite sauter deux lignes et machin etc. Je me casse en fait. Je me barre.
C'est pour ça que dans Discourse, qui est le moteur de notre forum, il y a des choses qui sont techniquement très intelligentes, qui sont que quand tu écris un article, un titre de post, tu as le moteur de recherche en instantané en face qui te dit hey, il y a ces articles qui ont déjà le même titre, est-ce que vous les avez lus? Et ça, je trouve que c'est hyper malin.
Et les 10 caractères.
Et les 10 caractères que tout le monde adore. Je voulais le passer à 50 caractères, mais je me suis dit que ça allait être compliqué.
Alors, je vais avoir une remarque qui va peut-être être problématique, mais est-ce que.
Tu déranges ce soir,
une des différences entre Stack Overflow et Quora, c'est pas aussi le niveau d'éducation? Parce que sur Quora, moi, à chaque fois que je lis des trucs, des réponses, des questions, etc., c'est tout le temps des mecs qui ont des PhD, machin, qui sont profs à l'université.
J'ai l'impression que c'est un peu le médium des sites de questions-réponses, Quora. Quoi. C'est un peu genre, je vais te répondre, mais j'ai aussi éclaté tout le monde.
Ouais, c'est une petite info d'Insidos. Moi, je sais qu'il y avait un des journalistes de Slate qui avait été approché pour écrire des réponses dans Quora et être payé pour ça.
Ah bon?
Ouais.
Ah non, mais là, on n'est plus dans un forum. Les mecs sont forumeurs professionnels.
Compromission de la communauté, quoi.
Non, mais Stack Overflow et Quora sont des entreprises bien des problèmes économiques. Oui. Et elles sont attachées. Moi, Quora, maintenant, je suis un peu tombé amoureux de ce truc. Je trouve que ce soit sur Star Wars où des mecs débattent toute la journée, c'est qui le plus fort des Jedi? J'aimerais bien qu'on en parle, d'ailleurs. Mais, voilà. Mais, et donc là, ils m'ont donné vraiment, vraiment beaucoup d'arguments. Et sur n'importe quel sujet, ou la Terre plate, ou la physique, ou le dev, ben, ils sont super. Les réponses sont très pertinentes.
Si tu vas sur un subreddit qui s'appelle Explain Like I'm 5.
Ouais.
Où tu demandes en fait aux gens de t'expliquer comme si tu avais 5 ans des concepts qui peuvent être la physique quantique, le système solaire, etc. Tu te rends compte que toutes les réponses sont ultra bienveillantes et que ça troll pas en fait. Donc, alors que sur le même Reddit, tu vas avoir des subreddits où tu n'iras pas foutre les pieds, par exemple Star Citizen, qui est une purge et que vivement qu'ils aient le jeu pour qu'ils arrêtent d'aller sur le subreddit. Mais du coup, c'est vraiment une question de communauté.
Sur Reddit, il y a les downvotes qui sont un peu pervers et il y a aussi un système de karma qui pervertit le truc. C'est-à-dire qu'il y a un méta-jeu de Reddit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour répondre à des gens, parfois. Parfois, on est juste là pour être dans le méta-jeu, et c'est compliqué.
Mais du coup, j'ai l'impression que vous disputez tous, mais pour trouver le critère, le vrai critère qui rend une communauté toxique ou qui rend une communauté bonne, qui est... Alors, est-ce qu'à un moment, c'est le niveau d'éducation? Est-ce qu'à un moment, c'est le côté hétéroclite et la variété des sujets qui permettent de ventiler un petit peu? Est-ce qu'à un moment, c'est le fait d'avoir des règles de nazi ou pas de nazi?
Il y a un peu une inconnue qui est Imager.
Alors, Imager, le meilleur de tous.
Parce que mon Imager, chouchou. Communauté ultra bienveillante.
Attends, tu parles d'Imgur.
Imgur, bien
Imgur,
sûr.
Imgur. Imgur, ultra, ultra bienveillante.
Meilleure communauté du monde.
Et pourtant,
il
pourrait partir en couille.
Il y a les downvotes, c'est lié à Reddit. Il n'y a pas de compte réel, donc il y a des anonymes.
Oui, ça a été très lié à 4chan aussi à un moment, puisque c'était là-dessus qu'on hébergeait les images de 4chan.
Et c'est la meilleure communauté du monde.
Et pourtant, Imgur, tu postes que des photos, du coup.
Oui. Non, tu peux commenter aussi.
Ah, tu peux commenter. Oui, mais ah, tu oui. peux pas partir dans des, dans non, surtout, des guerres de, ah, si. De discussion aussi.
Sauf que sur Imgur, il y a un état d'esprit incroyable. Et tu as une guerre des commentaires les plus intelligents et les plus drôles sous une photo, et qui sont souvent plus drôles que la photo elle-même d'ailleurs.
Donc, c'est aussi un des éléments dont on n'a pas parlé, c'est aussi la culture qui est créée par les gens qui sont sur le truc, par les pionniers, par ceux qui ont créé le site.
Mais comment ça se fait qu'Imgur est passé à plusieurs millions de membres, que ça a maintenant plusieurs années, que c'est lié à 4chan, que c'est lié à Reddit? Et que quand tu vas sur Imgur, c'est un paradis de l'humour fin, du bon sens, des choses constructives.
Il y a des trucs un peu
ouais,
dark.
Il y a des pages dark, mais
oui, tu vas dans le user sum en fait, mais tout ce qui apparaît en top, contrairement à Reddit ou à 9gag ou autre site comme ça, en fait, c'est incroyablement quali et ils y tiennent énormément. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sévérité sur Imgur en fait. Il y a rien. T'as pas besoin d'être sévère, Fibre.
Oui, mais effectivement, c'est un peu l'inconnu. Mais j'ai proposé des règles, mais je suis pas certain de ce que j'avance. Mais je pense que c'est plus un système de règles que de modération ou de décision en amont.
Mais c'est marrant parce que tu disais que le législatif était le problème, ouais. Et t'as fini ta chronique par proposer du législatif.
Oui. Non, oui, non, mais parce que législatif mal fait. Voilà,
il a proposé une réforme.
Voilà,
Alors que le législatif fait sur du bon sens, ton bon sens, évidemment.
Après, Imgur, c'est des petits chats mignons, des photos drôles. Est-ce que finalement...
Il y a du porno sur Imgur, ouais. Par exemple.
Ouais, mais quand tu regardes la majorité des photos, est-ce que finalement, ça ne te donne pas, tu sais, un peu comme du LinkedIn positif, tu vois? Tu n'as pas envie de... Voilà, tu n'as pas envie de partager.
Ah oui, mais tu as la dynamique du forum. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans le public, qui ont été confrontés à des histoires de forum? Alors, on en profite pour faire une grosse dédicace à Henri Michel. Qui est un des meilleurs podcasts de France. C'est pas Rivière à détente, c'est l'agenda du loisir français. Et dans l'agenda du loisir français, toutes les semaines, il va se balader, faire des lectures de forums. C'est un très, très grand moment de vie française sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des bonnes ou des mauvaises expériences ou qui ont été eux-mêmes modérateurs, d'ailleurs, ou qui ont créé des forums? Oui, monsieur, on va passer le micro tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, en tant que dev, j'ai pas du tout eu la même expérience que ce que tu as constaté sur Stack Overflow. Mais je pense qu'il y a un point fondamental, c'est que Stack Overflow, tu tapes une recherche de dev sur Google, c'est le premier résultat. Donc c'est une communauté qui drive vraiment tout, enfin c'est un site qui drive vraiment tout le monde. À l'inverse, Quora, bon déjà il faut que tu aies la chance qu'il soit proposé dans les premiers résultats. Ensuite, quand tu arrives sur le site, je crois que tu as une espèce de grosse pop-up qui t'empêche de voir la réponse tant que t'es pas connecté.
Tu peux pas lire toute la réponse.
Ah, c'est le voilà. Pinterest de la réponse.
Pour moi, il y a un truc fondamental, comme le disait Sylvain, c'est la communauté qui va être là au départ et sa capacité à monitorer qui va pouvoir rentrer ou pas. Si tu as une communauté hyper positive, ma qualité, il y a une communauté qui s'entend plutôt bien, etc., de gens, on va dire, assez intelligents.
Il y a les calistères aussi. Hein.
Et la question, c'est, donc a priori, ça part sur quelque chose de bien, et la question, c'est, au fur et à mesure, la communauté grandit, comment elle intègre les éléments problématiques, on va dire. Et en fonction d'un certain nombre de mécaniques, la mécanique de pour bannir les gens, etc. Ouais. En fonction de comment vont être reward les bonnes réponses, etc.
Mais comme tu disais, du coup, c'est quoi un élément problématique? Est-ce qu'une personne qui a posé pour la énième fois la même question, c'est un élément problématique?
L'élément problématique, il est défini par la communauté qui est là à la base, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des subreddits qui, de base, la communauté, les trois mecs qui ont créé le subreddit, nous, ça nous apparaît hyper problématique.
Oui.
Faut se mettre dans le point de vue des gens qui ont créé les subreddits de suprémacistes blancs. Peut-être qu'ils sont hyper contents de leur communauté.
Ah oui, sûrement.
Peut-être
oui.
qu'ils sont très bienveillants entre eux.
Et voilà. Et enfin,
c'est vrai en plus.
Il y aura forcément des communautés qui seront problématiques à nos yeux, parce qu'on peut pas être d'accord avec 100% des idées. Mais oui. À mon avis, une communauté, enfin ce qui va déterminer vraiment la qualité de la communauté à long terme, c'est les gens qui ont été là au début,
l'amorçage,
et comment ils vont se défendre de ce qu'ils considèrent comme des trolls ou pas.
Okay.
Ou comment ils vont pas réussir à le faire, justement.
Donc un forum, une règle, quoi. Un forum, deux salles, deux ambiances, en fait, en gros, non ?
C'est les pionniers, en fait, qui nous disent, c'est les pionniers de l'histoire qui vont décider,
transmettre la culture.
Les pères fondateurs de la communauté vont créer des systèmes de pensée qui vont être perpétués par la suite.
Ou les mères fondatrices, car nous sommes inclusifs.
Tout à fait.
Ok.
Intervention
là-bas.
Oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du sujet aussi. Sur les forums politiques, je pense que c'est plus ingérable que sur des forums où tu parles de Star Wars. Non, quoi que.
Bonsoir. Bonsoir. On parlait de Stack Overflow. C'est vrai que Sylvain, tout à l'heure, tu relevais le fait, tu parlais de l'éducation. Tous les ans, Stack Overflow, il publie un sondage super intéressant, enfin un gros sondage sur les développeurs, en fait, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont comme expérience et tout. Et sur ESO, on se rend compte qu'il y a vachement de gens qui ont 1-2 ans d'expérience en dev, mais c'est pas des PhD, quoi. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il y a une différence qui est faite. Et aussi le fait, on parlait du fait que Stack Overflow, ça remontait toujours en premier dans les résultats. Je pense qu'ils sont hyper à fond là-dessus, je veux dire ceux qui gèrent Stack Overflow. Et que du coup, ils essayent vraiment d'avoir des règles hyper strictes pour avoir quelque chose qui est très réactif et qui est vraiment fait pour les développeurs. Il y a un an ou deux, ils ont essayé de lancer leur système de documentation aussi. Je pense qu'ils veulent vraiment... ils veulent grandir et tout, et donc ils font attention à ça, et c'est aussi comme ça qu'ils établissent des règles et qu'ils sont en mode non, nous on veut que tu tapes une question sur le code direct, t'as une réponse qui est upvotée avec trois paragraphes, et c'est un mec qui sait ce qu'il fait et tout. Et
c'est un peu du gros hacking, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un côté un peu marketing là-dedans. Et,
tu veux dire que les règles pour écrire les titres, c'est aussi pour le SEO et.
Exactement,
et
je pense que.
Mais du coup, les mecs se plaignent après qu'il y a trop de monde qui viennent poser des questions de noob ou qui respectent pas les règles.
Moi, j'ai pas trop senti ça quand j'y allais, mais je pense vraiment qu'il y a un esprit Stack Overflow quand même qui est très basé sur. On veut devenir la Bible du code sur Internet. Ils font gaffe à ça, quoi. Et je pense que du coup, ça guide un peu ce qu'ils font et pourquoi. Mais finalement, quand on regarde, c'est quasiment des gens qui ont fait 1 ou 2 ans, mais les chercheurs, c'est vraiment, vraiment 1 ou 2% du truc, quoi.
Et toi, tu as une mauvaise expérience sur Stack Overflow ?
Pas vraiment. Je pense que ça dépend des technos. Tu parlais de kernel. Peut-être que les gens qui font du C ou du C++ sont vraiment des.
Encore une question d'éducation, bien sûr.
Sont plus des nazis ou quoi. Quand t'es plus côté front-end, JavaScript, tout ce genre de techno, c'est un peu plus la foire, du coup. C'est,
oh là c'est un là peu là plus là. Les gitans du dev.
Ben non, mais tu sais, il y a 50 façons de faire un truc, puis il y en a 3 qui marchent pas vraiment, mais en fait, c'est OK. Alors, du coup, là où en CPP, t'as des bouquins qui existent et tu vois, c'est beaucoup plus strict.
C'est-à-dire que t'as même un Stack Overflow, il y a du mépris immédiat pour certains.
Ouais, grave. Okay. Bah, les technos, c'est marrant. Il y a un mec qui a fait un post sur Reddit il y a pas longtemps qui disait qu'il avait été dans un hackathon et qu'il avait dit qu'il faisait du PHP et qu'il s'était fait huer et que c'était vraiment pas bien et qu'il y en avait marre et tout. Et...
Ça m'arrive tous les soirs. Hein. Je twitch du PHP, les devs viennent. Et
ah ouais, c'est assez insupportable. Ouais.
Mais par contre, il y a un truc qu'il faut pas, passer sous silence parce que là, on a eu deux intervenants qui disent Stack Overflow, c'est plutôt funky. C'est que Stack Overflow, ils ont un problème d'inclusivité. Ça, c'est des sujets que je maîtrise pas trop. Mais par contre, ils ont un problème sur la gestion des communautés politiques alt-right. Réel, enfin, en tout cas, c'est la première recherche.
Mais les mecs parlent politique sur un forum de dev, en fait.
Oui, parce que de même que nous, on a un
thread. Je vois des mains de dev qui se lèvent.
Qualité, Studio 440, on est plutôt numérique. Bah, nous, on a des forums sur les sneakers et sur les.
Stack Overflow, c'est quand même un truc ados, où t'as un problème de code et tu vas chercher à trouver une solution de code. Il n'y a pas de sub Stack Overflow sur ton
orientation politique. Je pense qu'ils ont cette ambition de devenir Reddit.
Le code, c'est l'ordre. L'ordre, c'est important, ça vient avec la morale. Okay.
Pardon. Okay. En fait, Stack Overflow, c'est juste une section d'un site beaucoup plus gros qui s'appelle Stack Exchange, avec physique, maths, histoire. Une section qui est très grosse, c'est English Language, où tu peux poser des questions de grammaire et de syntaxe et d'orthographe et de conjugaison. Et j'avais une autre question. Du coup, par rapport au fait que Stack Overflow était juste...
T'as vérifié que ta question n'avait pas déjà été posée ?
Non. Justement, c'est que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, les devs peuvent me répondre, mais qu'avec ce système d'achievement et de notation personnelle, certains devs mettaient sur leur CV note. Et du coup,
c'est vrai ? Oui, tu mets ta note Stack Overflow.
Voilà. Du coup, ça devient hyper important de respecter certaines règles pour que cette notation soit...
Juste.
C'est l'ubérisation du...
C'est comme ça que j'interprète.
C'est la chinoisation.
Et j'imagine que pour English Language, il n'y a pas de telle notation pour les linguistes, et du coup, il y a moins de toxicité.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expérience de forum qui n'a rien à voir avec Stack Overflow ? Je vois ici une personne. Une personne là, on y va, c'est parti.
Tu mets ta note,
Stack Overflow, c'est ton CV ? Morniac ?
Il y a Mimi à la fin.
Alors, attends.
Non, en fait, c'est, alors, non seulement certaines personnes postent leur score sur Stack Overflow, ce que je ne fais pas parce que je n'ai pas assez de points.
Mais tu le ferais si tu avais assez de points.
Mais je le ferais peut-être. En direct Black Mirror. Plus maintenant, en mais je l'aurais fait à une époque si je l'avais fait. Et, en fait, non seulement il y a ce système de points, mais ce système de points est rattaché à un système de job sur le site Stack Overflow. En fait, on peut trouver des jobs sur
Stack Overflow. Que si tu as le nombre de points
sur Non, non. Mais par contre, évidemment, ton nombre de points est mis en.
Ça a l'air de
retrouver très facilement et tu peux retrouver aussi les questions.
Dur sur
Stack Overflow. C'est pire que l'ubérisation des Chinois.
Oui, on passe le micro et après, on repasse. Il y avait qui ?
Bonsoir. Vous parliez d'homogénéité des communautés.
Oui.
Je pense aussi que s'il y a des avis trop divergents, ça peut fractionner, enfin, comment dire...
Diviser les communautés.
Voilà, diviser, les gens se foutent sur la gueule. Typiquement, il y a quasiment, je crois, plus aucun journaux en ligne qui ont encore une section commentaires. Elles sont quasiment toutes parties en live... dans des débats, enfin voilà. Donc je sais pas si là c'est parce que les gens étaient trop, avaient des avis trop divergents et du coup c'est parti complètement. Enfin ils ont dû fermer.
Y a-t-il des forums politiques encore possibles, des forums politiques sains encore possibles d'ailleurs. C'est vrai que les sections notamment des grands journaux, on sait tous que l'enfer c'est les commentaires Libé et les commentaires Figaro.
J'ai honte de le dire, mais un des forums politiques les plus intéressants aujourd'hui c'est sur jeuxvideo.com.
Ouais.
Parce que ils sont extrêmes, ils disent beaucoup de choses et il y a évidemment c'est une mine de charbon donc il y a plein de choses pas très bien mais de temps en temps une mine de charbon il y a quelques diamants.
Donc, et mine de charbon doucement.
C'est vraiment bien gâché.
Doucement avec les mines de charbon.
Ouais, non mais voilà non mais du coup c'est comme il y a une liberté d'expression qui pose problème.
Oui un petit peu.
Dans le cadre politique elle est assez intéressante. Voilà.
Mais en fait j'arrive pas à comprendre comment tu enfin pour moi le forum qui traiterait de politique va forcément refléter l'image de la politique elle-même. Et quand on voit l'image que donnent à voir les politiques en général, tu peux pas avoir un forum qui est plus progressiste que les mecs qui font le métier dont le forum parle. Tu vois.
Je sais pas, peut-être, imaginons.
Bah, le niveau de la politique actuelle, en tout cas chez nous, c'est pas.
Mais
c'est
si on avait un forum politique qui est comme Quora, qui est genre, on doit publier son vrai nom, on doit attendre 4 jours avant de pouvoir poster, on doit être, je sais pas, coopté, etc. Et qu'à un moment, ça parle de politique de manière passionnée, mais que c'est pas le comptoir du commerce.
Bah, il faudrait mettre ces mecs-là dans l'Assemblée nationale, du coup.
Ah non, ce serait chiant.
Tu es tellement utopiste, Nelly. Mimi.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Mimi, je travaille sur Mademoiselle, et on a un forum depuis le début. Et je pense qu'on est un des rares exemples, justement, de magazine qui a pu garder une section commentaire qui se passe bien. En fait, je suis... à la fois d'accord avec ce que tu disais, Fibre, sur le fait que c'est les règles qui font tout. Enfin, on a une charte du forum qu'on a beaucoup travaillée et régulièrement retravaillée pour... parce qu'en fait, il y avait des genres de loopholes. Et comme les meufs du forum, des fois, sont un peu techniques, elles étaient là, ah, selon la charte, j'ai le droit. Donc on disait, on va changer la charte. Mais donc on a quand même fait une charte très précise. Mais en fait, je pense que ce qui fait vraiment que ça marche, c'est l'intention des gens qui sont sur le forum. Donc c'est... ce qui a été dit tout à l'heure sur la communauté de départ, je pense que c'est plus important d'être clair et de... Il y a des gens qui veulent aller sur des forums pour être des connards et faire des concours de bites. Faites une bannière. Ici, c'est le forum des concours de bites et c'est pas grave. Nous, les meufs, elles sont là pour, je pense, vraiment débattre. Elles aiment beaucoup ça. Elles font des posts hyper longs. Elles parlent politique et personne ne se traite de nom d'oiseau et tout. Et en fait, les signalements qu'on a pour que des personnes soient bannies, c'est, je pense, en proportion égale des trolls ou des comptes de pub ou des machins et juste des gens qui savent pas débattre, des gens qui vont arriver avec des trucs à l'emporte-pièce, qui vont ignorer les réponses et tout. En fait, c'est ça pour la communauté. Ça passe pas, alors que sur un autre forum, ça passerait crème et peut-être ça aurait plein d'upvotes. Donc je pense que c'est juste qu'il faut dire aux gens, si vous voulez faire ceci, venez ici. Et après, la communauté va s'autogérer. Nous, on n'a pas de modérateur à plein temps quoi, sur le forum.
Tu peux rappeler aussi la première règle fondamentale pour poster sur le forum ?
Il faut être une femme. C'est un forum non mixte.
Ouais, bravo.
Cela dit, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épanouissent sur le forum Stackflow machin là, parce que si tu dis que ça a des problèmes d'exclusivité.
Ouais, gros problème d'exclusivité, mais effectivement, non mais c'est une règle intéressante. Du coup, je peux pas aller voir ce qu'il y a sur ce forum, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elles se disent.
Alors, tu peux lire. Il y a des parties privées où il faut être inscrit, notamment les topics. Très vie privée, sexuelle, etc. Mais tu peux aller lire les commentaires des articles.
Les commentaires d'articles sont intégrés dans le forum, ouais.
Ouais.
D'accord, ok.
Donc, mais c'est marrant parce que tu n'es pas banni.
La question de la modération, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, moi j'avais le sentiment aussi que sur des communautés un petit peu fortes, un modérateur qui serait comme un petit médiateur de proximité, comme dans les cités, etc., qui parle beaucoup avec les gens, qui va les voir en DM en disant écoute, mec, t'as un petit peu dépassé les bornes, tu devrais t'excuser, tu vois. Un type, un grand frère, tu vois.
Et c'est du boulot. Hein.
Bah ouais, c'est du boulot, mais je me dis, ça aussi, ça peut contribuer à rendre un truc moins toxique.
Mais normalement, c'est pas les modérateurs qui le font sur quand la communauté est bonne, c'est les autres posters qui vont dire mec, ouais. Tu vois. En DM
ça,
aussi.
Ça hein. S'autogère.
Ouais, le mec s'autogère en fait. Ouais. Si la communauté, elle est saine au départ. Qualité. Bon, là, il n'y a plus de forum, mais...
On va prendre une dernière question. Merci. Pour finir.
C'était... Bonjour, déjà.
Bonjour.
C'était par rapport à un forum. Je suis resté une petite année dessus. Et je suis parti avant que ça parte un peu en couille. Et en fait, à la base, c'était un truc très bienveillant. Et vraiment, c'était l'ambiance... je crois qu'il y avait... ouais, bon, il y avait peu d'utilisateurs, mais il y avait vraiment une bonne ambiance, très bienveillante et pas... qui était inclusive et... Enfin, qui était bien. Et c'est parti en couille parce que justement, il y a eu peut-être trop cet esprit de bienveillance qui voulait être là. Et moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. C'était vraiment... il fallait être bienveillant. Ça devenait la règle. C'est le, un peu, on revient...
Peut-on parler de bienveillance au-delà du bon sens, du coup ?
Oh là. ouais. C'est vrai qu'il y avait un peu trop de cet esprit-là. Et du coup, évidemment, il y a eu des abus. Il y a des gens qui ont justement profité de cet esprit de bienveillance, des trolls, etc., évidemment. Et c'est parti, en fait, un peu... les gens étaient un peu dégoûtés, au final. Et je crois que le forum a fermé maintenant, mais... Enfin, dans l'idée, c'était... Même avec une bonne commune de base, ça peut partir...
Alors, question, est-ce que c'était plutôt avec le temps, ou est-ce que c'est avec la croissance en nombre de membres que ça se bat en vrille ? J'ai l'impression que c'est un peu les deux critères qui font que...
C'est aller en même temps.
D'accord. Ouais. Genre les premiers fondateurs deviennent un peu les vieux cons par rapport aux nouveaux, c'est le genre de truc qui arrive régulièrement dans des communautés.
En plus, les premiers fondateurs qui étaient bien, ils ont commencé un peu à... Bon, il y a trop à gérer, on est peu par rapport au grand nombre d'arrivants. Et, enfin, je ne faisais pas partie de ces gens-là au début, mais je sais que ça a dû être beaucoup de redire toujours la même chose.
Ouais.
Donc contrairement à là où il y avait un système de... Même s'ils redisent avec des nouveaux arrivants, ils redisent les mêmes choses face à des trolls, tu disais ça tout à l'heure. Donc ça reste intéressant, en fait.
C'est intéressant de dire que toujours les meilleures intentions, on part toujours des fameuses meilleures intentions, c'est pour ça que je remettais en cause ton sens du bon sens qui veut tout dire, en fait, finalement. Sylvain, tu veux dire quelque chose dessus?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Non, c'est... Je voulais demander le nom du forum.
Est-ce qu'on a le nom du forum ou pas?
Le nom du forum.
On en parle pas.
L'original? Ok.
Okay. Bah, attends, mais je connais l'original.
Bah, c'est notre ami Thomas Arcotte.
Ah, mais oui, c'est vrai, il y avait le forum de l'original. D'accord, ça c'est barré, c'est parti en flamme.
Pourquoi je suis pas
temporairement,
surpris?
Temporairement, peut-être.
Pourquoi quoi?
Non, pourquoi je suis pas surpris?
Mais enfin, c'était bienveillance. Je crois que c'était bienveillance, Daz.
Oui.
T'es toujours dans ton année bienveillance, tu sais.
Oui, toujours.
Attends. Et juste pour finir le débat, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est des vieux cons, qu'on devient aigri, qu'on a posé des règles un peu relou sur le forum de qualité? Si un jour il revient.
Il y a zéro règle. Moi j'ai pris le truc, les règles standards.
Il y a zéro règle. On banne des gens, donc on banne bien des gens selon un.
Mais je banne personne. Les seuls que je banne, c'est les mecs qui ont un compte, ils viennent d'arriver et c'est pour essayer de nous vendre des matelas qui tiennent même pas 3 mois, tu vois. Et en plus, les délateurs font leur taf. Donc, moi j'ai juste à. Ah, effectivement, c'est un compte de merde, je le shoot, mais ça se trouve, je l'aurais même pas vu.
Il y a Cortis aussi, tu lui fais des petites mises à pied temporaires, quoi.
Ouais, vite fait. Franchement, vite fait. Il s'est calmé.
C'est de l'amour. Bon, je propose qu'on fasse une nouvelle règle qui change tous les jours sur le forum d'admission.
Bah déjà, il faudrait qu'on leur allume, ça serait cool.
Ouais. Genre, un jour, il faut être un garçon. Un jour, il faut être une fille. Un jour, il faut avoir un master.
Un PhD.
Mais le problème des règles,
un jour, on badit un mec au hasard.
Chaque jour, le staff pour les appliquer. Quoi.
Chaque jour, un mec au hasard. Jusqu'à qu'il en reste qu'un.
Dès qu'un mec parle de PHP, on le garde dans le forum et on le siffle numériquement. Bon, allez, fin de ce débat. On viendra en parler des forums. Dans le forum de qualité, le jour où le forum de qualité sera de retour, on attaque la deuxième FAQ.
FAQ.
Alors, une question de Alphonse.
Donc, ma question, c'était pour ou contre l'encoche sur les smartphones modernes, parce qu'il y a un débat en ce moment qui n'en finit pas.
Le fameux notch.
Enfin un sujet tech.
Oh. Ah, bienvenue dans le journal du hardware avec
Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut expliquer la question?
Qui a un iPhone 10?
l'encoche qu'il y a en fait sur les certains des smartphones qui ont décidé de faire un écran de la taille du boîtier. De la face.
Et qu'à un moment, faut mettre les
il faut bien mettre les capteurs, les objectifs, etc. Et donc, eh ben, ils font une encoche en haut de l'écran.
Donc, c'est l'iPhone 10 qui a popularisé la chose, mais c'est l'essentiel phone, je crois, chez Android, qui l'avait un peu lancé en premier.
Ouais, mais l'iPhone a rendu le truc cool, oui. Alors que c'est à la base une limitation technique qui fait qu'on n'arrive pas encore à mettre malheureusement les capteurs derrière l'écran, et donc on est obligé de faire une encoche. Et donc, l'encoche de l'iPhone, c'est devenu un design de référence.
Ouais. Pour tous les... C'est devenu un argument marketing pour les fabricants d'Android, de clients d'Android qui disent on a une encoche plus petite que celle de l'iPhone 10. Ou nous avons une encoche comme l'iPhone 10, mais on peut la masquer. Bon, ouais, ça sert à rien. Mais effectivement, on en voit partout, c'est all the rage. Vous avez déjà testé ce genre de téléphone ? Vous préférez avoir un téléphone avec des grosses bandes en haut en bas ou un téléphone avec le notch ?
Moi, j'ai jamais testé et je suis team petit form factor où mon pouce peut faire toute la diagonale. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un écran trop grand.
Donc, t'es un type vieux con, quoi, d'accord. Très bien. Ah là là. Merci pour ton intervention.
Moi, j'ai un téléphone à clapet, donc voilà.
Fibre, tu ne l'as pas vu, tu ne vois pas de quoi on parle, du coup.
Ouais, je suis paumé, là. J'ai un OnePlus.
Tu n'as jamais vu un iPhone 10 ?
J'adore mon OnePlus. C'est la communauté, d'ailleurs, qui me l'a suggéré. Et je remercie la communauté. Je vis de moments incroyables avec lui.
J'ai l'impression qu'il le dit à chaque non, émission.
Mais écoute, ça fait partie des rares choses qui me rendent heureux dans la vie. J'adore manger. J'adore cet objet.
Voilà. David ne nous a pas inclus dans le truc. Hein. Il adore manger. Il adore son téléphone.
Je vous aime bien aussi.
Cool. Et dis bonjour à Kaifouli aussi qui t'écoute. Mélissa, t'es pour ou contre ? Parce que je sais que quelqu'un qui partage ta vie a ce notch.
Bah franchement, je sais pas quoi. Je m'en fous, vraiment.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse. Mais
lui,
bon,
il a l'air content, moi, je sais pas.
Ok, Daz.
Moi, j'aime pas.
Ouais.
Mais en fait, moi, je pars du principe qu'on devrait même virer le... Enfin, moi, j'utilise jamais la caméra frontale.
T'as pas compris les usages de nos jours.
Ouais, non, mais je fais pas de selfie, donc en fait, je m'en fous un peu. Et du coup, si on enlevait ce truc-là et qu'on mettait des capteurs de luminosité sur la tranche, bah du coup, on pourrait utiliser tout l'écran et voilà.
C'est sûr que je peux trouver des selfies.
Parce qu'en fait, la seule raison du notch, c'est d'avoir l'appareil photo en face de l'écran pour que tu puisses te voir pendant que tu regardes l'écran. Donc,
Et la reconnaissance faciale.
Ouais, mais ça, c'est un gimmick, on s'en fout.
Tu vis pas avec ton époque.
Ouais, c'est ça qui est triste.
Bon, alors le notch, non. Osef, je ne sais pas ce que c'est.
Osef.
Osef. C'est un avis tranché, c'est un avis qu'on aime. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique avec Mélissa et l'enfer des autres.
Sujet numéro 3.
Notre attention, cet otage des autres.
Alors, on va parler...
Ce petit titre-là.
Des likes et des listes, mais avec un twist.
Avec un twist. J'ai 31 ans, ceci n'est pas le twist. Ah. Et une petite dizaine d'amis autour de moi, vous inclus.
J'ai eu peur, gros suspense.
Ensuite, j'ai des dizaines et des dizaines de connaissances. C'est dans ces gens dont je dis ah oui, machine, quand quelqu'un en parle, mais à qui je n'irai jamais raconter mes dernières vacances à Marseille, bien qu'ils pourraient les déduire de mon compte Instagram. Facebook les appelle quand même mes amis, ces gens-là. Nous avons tous franchi la trentaine ici.
J'espère. Oui.
Et pourtant, une chose étrange se passe, nos amis, nos relations nous en veulent parfois comme quand on était au lycée. Pour des choses importantes ? Non. Pour des petites choses qui, si elles n'arrivent pas, remettent en cause de longues et belles amitiés et relations. Ces choses dont je parle, c'est cette myriade de petites actions sur Internet que nous faisons chaque jour. Nos likes, nos commentaires, nos messages, nos posts, notre façon de communiquer depuis 10 ans, en somme. Et en fait, aujourd'hui, être un ou une bonne amie, être un ou une bonne plus un, plus une, sur Internet, c'est devenu un marathon. On continue sur le « faut être performant ». Mais soyons clairs, c'est un marathon où personne ne courrait la même distance ni avec les mêmes règles. Certains s'arrêteraient tout le temps et d'autres y sprinteraient. Personne n'a la même vision de ce qu'il faut faire sur Internet. Les 5 ans de Studio 404 le prouvent.
Ouais.
Et ça change nos relations sociales de manière durable. Et donc, comme nous enregistrons cette émission en public aujourd'hui, j'aimerais réaliser un petit sondage sur un échantillon donc très représentatif de la population, à savoir
évidemment.
90 auditeurs de Studio 404. Première question, votre ex s'est-il ou s'est-elle déjà énervé parce que vous n'avez pas liké ses photos Instagram alors que vous likez les photos d'inconnus ?
Attention.
Pourquoi l'ex ? Ça peut être l'actuel.
Ou votre actuel.
Ou votre actuel, tout à fait.
Trois
mains levées, ok.
4, 5, 6.
Vous n'êtes pas très représentatif.
Ouais, j'avoue.
Ils sont en couple beaucoup, hein. Ils n'osent pas
trop en parler. Je tente autre chose. Avez-vous déjà survécu au regard noir d'un ami très proche qui se rend compte que vous n'avez pas vu sa dernière photo Instagram dont tout le monde parle depuis 15 minutes ?
Si 5, c'est ami, 6, c'est 7, soi-même. 8, 9, 10, une petite dizaine, une petite quinzaine. Je suis
mon meilleur ami. Ça marche si cet ami, c'est soi-même. Si c'est toi qui fais le regard noir.
Un pote vous a-t-il déjà affiché lors du rappel annuel d'un anniversaire d'amitié Facebook en se rendant compte que vous n'aviez liké que 9 de ses posts? Là, une seule personne va lever la main. Oh là, ah, 2 9 vraiment.
Science-fiction que cela.
Vous êtes-on déjà qualifié de snob parce que vous ne répondez jamais aux messages sur Twitter? Il n'y a pas que là, petite dizaine de personnes à nouveau. Votre nouvel amoureux amoureuse vous demande-t-il pourquoi vous ne l'avez jamais accepté sur Facebook?
Là, c'est dur quand même.
Il n'y a que des vieux couples, donc, ou des gens célibataires. Vous a-t-on déjà reproché de ne pas avoir souhaité l'anniversaire de quelqu'un sur Facebook?
Ça se lève grave.
Marée humaine.
Bah, Facebook te le reproche déjà.
Ah, c'est vrai.
Vous en a-t-on voulu parce que vous ne likez pas toutes les pages Facebook des nouveaux projets de vos amis? Marée humaine à nouveau. Enfin, vous l'avez bien compris, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Toutes ces petites actions du genre vous ne retweetez pas un contact qui demande son petit RT pour une petite annonce, tous les likes de posts que vous ne faites pas parce que en fait, enfin, vous les voyez mais c'est des bots, ou là où vous mettez des photos mais en fait il y a moins de photos de certains amis, donc il y a des amis qui sont hyper jaloux de vos autres amis. Toutes ces petites choses là, renoncez, vous ne ferez jamais des choses bien, tout simplement parce que vous ne pourrez jamais combler les névroses de personnes qui se sentent mieux proportionnellement à leur nombre de likes.
Donc là, on est dans la chronique dopamine from the other side.
C'est ça. On a besoin de publier pour exister, on a déjà parlé dans 404, mais les autres ont besoin de nos réactions pour exister. C'est chaud. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on est paradoxalement dans un moment où on veut, tu vois, avoir plein de relations sociales, connaître plein de gens, être sur plein de réseaux sociaux, liker plein de gens sur LinkedIn. Et en fait, on tente de mieux normaliser. On veut mettre des règles. On parlait de règles tout à l'heure. On veut mettre des règles. Il faut faire comme ça, sauf que personne n'a les mêmes règles. Alors, ça vous semble hyper anodin. Ça prend vraiment que quelques secondes, quoi. Je peux liker la photo d'un crush de lycée aussi vite que celle de mon mec aujourd'hui. Le mec du lycée, il est amusé. Mon mec, pour lui, un like, c'est normal. Mais ça ne devient pas normal si je ne le fais pas.
Ouais.
Et comme il vit avec moi, heureusement, il sait que jamais de la vie...
Il t'entend là ou pas?
Je sais pas. Il n'est pas en France. Je ne sais pas s'il y a Twitch là où il est.
Profite.
Il sait que jamais de la vie, un like sera une preuve d'amour. Mais pour les amis, ce n'est pas toujours aussi simple. D'autant que vous avez de plus en plus d'amis. Là, je fais des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Et l'absence devient d'autant plus signifiante que vous êtes très habitué à ce qu'on vous like. Et donc, je suis la première à être victime de ces petites névroses avec mes petites preuves d'amitié. Je remarque malgré moi qu'une amie qui me retweete d'habitude beaucoup me retweete moins qu'avant, ou que ma meilleure amie qui ne like pas une photo où il se passe des choses importantes pour moi, c'est chaud, quoi. Me voilà donc actrice de ce monde où les autres ont besoin de nos réactions pour exister.
Oh là là, cette prise d'otage mutuelle.
C'est chaud. Le problème, c'est que c'est pas fini, les mecs.
Ah ouais. Oh,
c'est la force de l'habitude, parce que ces actions, en fait, elles n'ont pas changé. Mais en fait, on s'est habitué à faire grossir nos communautés. C'est-à-dire qu'on va aller faire des actions sur le forum, on va aller faire des actions sur les nouveaux réseaux sociaux. Rappelons qu'il y a 8 ans, il n'y avait pas Instagram, mais on parlait déjà de Facebook et Twitter, mais que maintenant, il faut faire Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et en plus, nouveau twist, les algorithmes. Toujours là pour foutre la merde.
Ah,
parce que si votre post n'est pas liké dès le départ, bah, il sera mis en avant moins longtemps par Facebook, par exemple. Et du coup, il sera moins commenté, il remontera moins. Du coup, vos amis et relations se sentiront moins exister. Et ce n'est pas de votre faute. C'est juste l'algorithme de Facebook qui fait « Ah non, ça ne marche pas ». Enfin bref, si en plus les algorithmes nourrissent nos névroses, on est vraiment mal barré. Et je suis sûre que vous avez déjà aussi eu un ami qui vous a demandé de liker des posts.
Ah bah évidemment,
tout le temps.
Ou relations.
Mais ça, évidemment.
Et attendez, c'est pas fini.
Oh là là,
ça ne s'arrête jamais. Non, c'est pour vous montrer que c'est un peu le vortex de l'amitié par l'existence. Parce qu'au-delà de ça, après on a nos comptes, nos différents comptes sur les différents réseaux sociaux, mais après il y a le miracle des pages secondaires. Parce que maintenant... Il y a des gens qui ont des chats, qui ont des chiens. Et donc, il faut liker la page du chat et du chien parce que forcément, c'est mignon, tu vois. Et là, donc, tu vois sur le compte de ton pote, le mec qui est en train de te dire « Viens liker le compte Instagram de mon chat qui s'appelle Taylor ». Et donc là, il est 1h16 du matin.
C'est très, très précis, tout ça.
Bien trop précis.
C'est une psychothérapie.
Moi, j'ai eu beaucoup, hein, les comptes secondaires.
Il est 1h16 du matin. Vous voyez votre ami qui fait la promo de ce compte de chat, qui vous encourage à vous abonner, et là vous soufflez un grand coup, parce que c'est un marathon, rappelons-le. Oui, vous aimez bien son chat, mais ça fera encore 4 actions de plus par jour.
Ouais.
Ceci, les amis, est la nouvelle pression sociale.
Ah là là, si vous aimez Mélissa, applaudissez-la, parce que sinon elle n'existe pas, évidemment. Envoyez-lui des likes avec vos mains.
L'enfer des autres. L'enfer des autres et de la pression sociale qu'on a tous vécu du « tu me snob » ou « tu like moins ». Ou quand j'ai découvert que certains, comme tu dis Mélissa, te like sur Instagram, en fait, c'est des bots. Donc en fait, tu ne te like pas du tout. C'est extrêmement vexant. Bonjour Romain Collin. Hein, de Fubis.
Non mais là,
oui,
9 likes en 9 ans.
Parce que cette histoire est vraie.
Ah oui.
Est-ce que quand même c'est pas du foutage de gueule?
Excuse-moi, si tu postais pas énormément de choses.
C'est de quoi? De qualité?
Non.
Voilà, on est en train de vivre un moment de pression sociale. Là.
Non, mais en plus. Et ce qui est rigolo, c'est que t'en as pas parlé, Mélissa, mais du coup, Daz, j'y pense. Dans ma tête, Daz, il est moins needy que d'autres amis que j'ai. J'ai des amis où c'est pas grave. Tu sens qu'ils ont posté et qu'on l'a tous fait. F5 pour voir si les likes montent, etc. Et je sentais en tout cas que Daz, avant qu'ils soient un peu plus dans le game de Twitter notamment, ils osaient complètement.
Non, pour de vrai.
Et tu postais peu.
Non, pour de vrai, c'est le fait que Facebook te fasse la petite vidéo d'anniversaire en disant oui, vous avez une amitié énorme en 9 ans, vous vous êtes liké 9 fois. J'ai fait putain, tu vois, la vidéo qui te met dans le mal en fait. Et oui, en soi, je suis pas trop non plus. À cran là-dessus, tu vois.
Mais tu sais, comme je sais qu'on a des amis beaucoup plus needy là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations, quel que soit le réseau, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation? Ça peut aussi être de la famille, d'ailleurs. La famille, quand tes parents s'y mettent, c'est...
Le pire, c'est que parfois, la situation, elle n'est pas autant explicite que ça. C'est-à-dire que le mec ne va pas te reprocher ou ne va pas te dire ou t'as pas liké, t'as pas machin, mais tu sens qu'il y a un malaise quand même.
Et t'as pas eu ma dernière photo de... T'as pas suivi ma story, par exemple, il va te demander.
Bah si, mais ça marche pour les réseaux sociaux et aussi pour les projets que tu fais. Genre, Studio 404, tu sais pas ce que c'est? Ça fait 4 ans quand même que je poste des trucs tous les mois.
Si, bon.
Je pourrais parler des heures là-dessus, mais... disons déjà, Podcastéo m'a demandé aujourd'hui de RT un sondage à eux et je leur ai dit.
Podcastéo, on rappelle.
Osef.
Qu'est-ce que ça clash?
Et j'ai répondu petit smile à voir, tu vois, alors qu'en fait jamais je le ferai. Moi, par principe déjà, tu me demandes de RT un truc, je le fais pas. Ça c'est sûr, tu vois. J'étais assez salaud là-dessus. Alors il y a plusieurs choses. Toi, Mélissa, tu dis quelle pression sociale, on est obligé de liker les gens. Eh bien moi, je trouve que tu es plutôt cruel. Parce que moi, quand je vais sur Twitter, dès que je vois quelqu'un qui poste, mais n'importe quoi, je lis même pas son post, je dis « Ah, je suis content qu'il soit là », et je like. Je like son post, j'en ai rien à foutre, en fait. Je suis content qu'il ait posté, tu vois, l'âme, il poste des trucs, « Ah, il est là, cool, tata. »
Moi, du coup, je suis vexé, et en plus, putain, le mec, ils sont bas les couilles.
Et en plus, je trouve que c'est vraiment très beau, parce qu'avant, il y a des étoiles, maintenant, il y a des cœurs, et tu mets plein de cœurs, et c'est vraiment chouette, t'envoies des cœurs avec tout, t'envoies, et je suis hyper heureux de faire ça.
Il y croit pas, il veut juste que vous likez ses posts.
Et surtout, là, il confirme ta technique, ton préposé de début, que chacun sait ses règles.
Tout le monde like, quoi.
Et par contre, je vis pas du tout, genre, je poste un tweet, personne le retweet ou le retweet. Je suis pas mortifié. En fait, je pense. Je suis mortifié.
Tu vas l'effacer et le reposter plus tard.
Je suis mortifié, mais en fait, je me dis, c'est de ma faute. C'est moi qui ai déconné. J'ai pas fait le bon truc qui leur plaît.
Donc tu te mets quand même en souffrance parce que des gens n'ont pas réagi.
Ouais, mais c'est mon problème, mais je vais pas le dire. Eh mec, mais c'est débile d'ailleurs de dire j'ai fait un truc, likez-moi. C'est vraiment la médiocrité intellectuelle et émotionnelle totale. Ça veut dire que tu fais un truc, les gens aiment pas, et en plus tu les tires par le col. Tu dis mais vas-y, aime, mais non, t'es con quoi. C'est pas comme ça que ça marche.
Ils te le disent pas de manière frontale comme ça. C'est sous-entendu.
Ouais, mais le fait qu'ils le pensent, c'est pas la bonne façon de faire.
C'est plutôt quand ils le font, quand tu ne le fais pas, qu'ils t'en veulent, tu vois. C'est pas eh viens liker mon post, c'est ah top. T'as pas liké mon post du coup.
Ouais.
Non, ça c'est insidieux, c'est au bout de quelques mois, t'as quelqu'un qui dit genre non, mais tu likes plus mes photos.
Mais je pense que c'est. Enfin, justement, ce que tu viens d'évoquer, c'est plus. Ça rejoint un peu la théorie du trou dans l'océan. Et.
C'est quoi cette théorie du trou dans l'océan?
C'est dans le. En train de l'inventer, on dirait.
Non, c'est dans le monde des sous-mariniers, en fait, pour détecter un navire qui est ultra silencieux. C'est un navire qui fait moins de bruit que le bruit.
Je suis sûr que t'as joué un simulateur de sous-marin nucléaire.
Non, je dis beaucoup de trucs sur les sous-marins en ce moment. C'est mon petit kink. Et en fait, ils expliquent que c'est une technique, justement, normalement, avec un sonar, tu détectes le bruit de enfin, avec un. Comment?
Ah. Un radar.
Un truc.
Les ultrasons.
Non, ouais, voilà, le truc qui permet de. Enfin, je sais plus comment on dit, bref. Un micro. Voilà, tu détectes en fait le bruit que font les autres navires. Et en fait, il y en a qui font moins de bruit. Et du coup, pour les détecter, plutôt que t'énerver à essayer de détecter un bruit imperceptible, tu vas prendre le bruit de fond de la mer et comprendre que s'il n'y a rien à cet endroit-là, c'est que forcément il y a quelque chose. Et en fait, ce que Mélissa dit, elle dit souvent dans sa chronique, elle disait tu likes plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu likais trop.
T'as liké juste.
En fait, si les gens n'avaient pas liké du tout, tu pourrais pas leur reprocher de moins liker.
Donc là, c'est pour ça sûr. Qu'il faut jamais reply sur Twitter.
Il est fort, il est très fort.
Il y a aussi, il faut dire un truc, c'est que Facebook, si tu likes pas des trucs, il se dit ah ben il l'aime pas trop, donc je vais l'enlever du feed et je vais mettre d'autres choses.
C'est ça,
c'est un cercle.
C'est l'algorithme qui te pourrit encore plus le game.
Oui, c'est ce que tu disais, Mélissa, c'est que si on te like pas au début, on te like encore moins ensuite.
Et là, c'est la fin du game parce que du coup, t'es vraiment dans une course au.
Est-ce que vous avez déjà liké machinalement, comme un peu fibre le fait, genre pour dire, ah ouais, ok, juste t'ai vu, le fameux like du. Oui, bien sûr, je suis là.
Il y avait une
là,
théorie de notre ami Dana Boyd hein, qui a beaucoup écrit sur les adolescents.
Dana Boyd, qui est de nos muses de 404.
Qui s'appelle, qu'elle a appelé le social grooming, qui inspirait des primates qui s'épouillent les uns les autres. Bah en fait, c'est pareil, tu vas liker le post de quelqu'un, qu'importe le contenu, juste pour lui dire hey, je suis là, je pense à toi. Et cette personne, en retour, va venir aussi liker ton post. Voilà. Et pareil à l'époque des blogs, où tu allais commenter sur un blog pour que le mec vienne commenter sur ton blog, etc. etc.
Donc, social grooming.
Ouais, c'est quelque chose qu'on fait machinalement maintenant, je pense, en plus.
Mais moi, le like, c'est plus web comme un ok, j'ai vu ta réponse, que comme un j'ai bien aimé ta réponse. Ouais.
Oui, donc voilà, donc toi, c'est vraiment c'est check. Mm. C'est plus j'aime.
C'est pas systématique non plus, tu vois.
Ouais, mais comment tu vois la différence?
Ah, ça,
Mais je vous invite vraiment à ne pas lire, à gagner du temps, à ne pas lire les gens et à les liker. Et ça va vachement bien. Et les liker vraiment du fond de votre cœur. C'est-à-dire que quand vous voyez un post, vous dites ah, c'est dash, j'aime bien. Like,
c'est complètement débile ton truc parce que tu alimentes la machine. Enfin, tu vois, genre, oui. Si tout le monde like.
Mais si, parce que like tu alimentes la machine. Mais non, tu donnes du bonheur aux gens en faisant le minimum d'efforts. Je trouve que c'est fantastique.
On dirait un post de Grégory Logan où il disait sur l'idée j'ai arrêté de lire les journaux. Ça sert à rien. Ne lisez plus les journaux. Pareil. Mais
vraiment.
Ah, ce monde magnifique. Mais du coup, les gens, ils savent que tu t'en fous, en fait.
Mais, oui, mais ils reçoivent leur like, ils s'en moquent.
Tu te rends compte que
mais même moi, je veux dire quelque chose. Si vous me retweetez sans me lire, je suis hyper content. Vraiment, faites-le. Hein.
Incroyable.
Mais oui.
Et pourquoi t'as pas codé un bot pour le faire à ta place? Finalement, tu gagnes vachement de temps.
Mais moi, je suis un artisan de l'amour. Je donne du like à la main, comme un paysan. Enfin... les mains pleines de terre, tu vois.
Oh merde.
Je sais pas comment relancer ça.
Est-ce que peut-être on aurait des histoires de ouf d'amitié et de relations qui ont été vraiment compliquées par cette absence ou cette surprésence de like dans le public?
Est-ce que dans le public il y a
des histoires de ouf? Il y a une main de levée déjà.
Alors il y en a qui se lèvent et monsieur va venir intervenir.
Pendant qu'il vient, je dis juste un truc, c'est que parfois il y a des mecs qui analysent hyper le comportement du like parallèle, tout ça, et ils font des kayakus dans leur tête, tu vois, en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils pensent ça, alors qu'en fait, moi je suis juste un random. Voilà.
N'essaie pas de comprendre Philippe comme un humain, c'est un bot très évolué. Bonsoir.
Déjà, je suis un exemple vivant du social grooming à l'extrême. D'ailleurs, certains ici en font les frais.
Tu es Bastien ?
Oui.
Tu es Bastien?
Ah, c'est toi.
Oui.
Il a liké.
Ah, c'est toi.
Il retweet tous mes tweets. Non,
Bastien,
exactement.
Dire,
lui, c'est la Bastien. Personne que je l'aime bien.
Alors attendez, donc là on parle donc un auditeur Bastien qui retweet tout beaucoup.
Mais on a une empreinte carbone de ouf parce qu'il retweet tous mes tweets. Je like tous ses retweets, tu vois.
Non, t'as liké.
Oh, ça, c'est bon.
T'as liké un tweet de Sylvain cet après-midi où il parlait de sa banque au Japon.
Oui.
Et où genre il y avait un gros fail.
Parce que je suis aussi client de la banque. Et okay. Pour le coup, j'ai un peu compati en likant.
Alors, ouais. Raconte-nous ta pratique du social grooming. Pourquoi tu aimes liker beaucoup des gens? Dis-nous.
Alors, je ne sais plus l'origine du truc, pour le coup, mais je sais que maintenant, c'est devenu en partie un automatisme et en partie un mélange de raisons. Un peu comme Fibre, c'est pour montrer que je suis content qu'il ait posté quelque chose. Des fois, c'est pour montrer que j'ai lu, check, ok, c'est bon. Quand je remonte ma TL Twitter, ok, ça s'est fait. Des fois, c'est parce que j'ai effectivement aimé ou parce que je suis d'accord avec la personne. Des fois, c'est bêtement pour faire des stats pour les influenceurs. Hein, j'assume complètement. Mais je suis.
Mais le tout sous le même like.
C'est un très bon client.
Toujours. Ah oui, non, mais je suis un Yankee complet. Hein.
En fait, c'est bien parce que quand
RT plus follow, on est totalement.
Quand tu fais un tweet vraiment mauvais, il y a toujours lui qui est là. Donc je suis hyper content. C'est vraiment le mec qui sauve la like.
Comment tu peux être content parce que du coup, il n'y a plus de qualité à ton tweet. Ouais. Parce que de toute façon, Bastien va te liker.
C'est vrai, le pauvre, il me like, il me retweet et après, je supprime le tweet parce qu'il n'y a que lui, tu vois. Mais à un moment, tu vois, il m'a donné l'espoir, tu vois.
Est-ce que tu likes son retweet avant d'effacer ton tweet?
Oui, bien sûr. Et on se remercie quand même.
Et vos regards se croisent des fois pendant que vous touchez.
Non mais par contre ce qui est fou c'est que je m'aperçois effectivement que nous deux on est en automatique et qu'on c'est pas très écologique tout ça mais bon ouais.
Non, mais j'ai l'impression que c'est deux bots qui se rencontrent, c'est très bien.
Oui,
comment tu fais avec les personnes que tu connais? Faisons le tour de ton social grooming. Comment tu fais avec ta famille, Peut-être tes proches, ta copine, ton copain, je sais pas, comment ça se passe?
Alors, déjà, je suis pas sur Facebook. Donc déjà, ça
c'est le premier réflexe qui sauve, ouais.
Oui, ça limite beaucoup. D'ailleurs, ça a failli me perdre il y a quelques années, c'est pour ça que j'ai quitté Facebook. Du coup,
il y avait trop de contenu à liker.
Alors, il y avait ça.
Ça prenait la journée.
Il y avait aussi l'algorithme qui commence à être un petit peu relou. Donc, ça commence à être un peu de la merde, donc j'ai arrêté. Pour ma famille, j'en ai qu'une partie qui est sur Twitter et on s'échange des likes des fois sur certains sujets. C'est défini tacitement, mais ça arrive. Mes amis, ça dépend parce que j'en ai certains qui ont posté que sur certains sujets ou dans certains domaines qui des fois m'intéressent, des fois m'intéressent pas. Alors quand ça m'intéresse pas du tout, bon, quand je vois que ça floppe un peu, j'apporte un peu de soutien. Un petit like pour tout, vas-y. Des fois,
quand j'aime, je like. Quand j'aime pas, je soutiens, donc je like.
Je like. Quand j'ai pas le temps de lire, je like. Je like.
Non, je RT.
Ah.
Comme ça, allez lire. Moi, j'ai pas le temps, mais allez lire. Non, ça dépend vraiment et c'est beaucoup trop un automatisme. D'accord. Et je sais que ça me pollue un peu la vie parce que ça prend du temps.
Est-ce que tu as peur, justement, comme disait Mélissa, parce qu'il y a cette dictature de l'autre, est-ce que tu as peur que si tu commences à ralentir ton rythme, parce que juste naturellement, tu as envie de dire en fait, là, à un moment, j'ai trop liké, j'ai trop de gens, ça marche plus. Comme disait Mélissa, ça marche au début quand on a peu de potes, quand on a 150, 200 ou 300 contacts, ça devient dur. Est-ce que tu as peur de la réaction des autres, nous les rendre un peu malheureux en disant ah, ben, peut-être qu'il va se dire que je like plus ou je l'aime plus?
Alors, pour le coup, j'ai pas eu trop dans ce sens-là, j'ai eu plutôt dans l'exagération complète. C'est vrai qu'il y a certaines personnes.
Est-ce que là, c'était pas déjà d'exagération complète là? Il y a encore pire du coup là?
Ah oui. Oui.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Ben, le problème, c'est que quand t'as des gens qui postent beaucoup dans la journée et que du coup, en automatique, tu likes 90% de ce qu'ils postent, des fois ça passe pas. non, mais.
Ouais, tu t'es fait griller en fait.
Ouais, ça ah, mais complètement, oui. Non, d'accord. Il y a des gens, mais après, il y a des gens avec qui je me suis expliqué. non, mais.
Donc là, on s'explique ensemble. Bon, écoute.
Non, mais
sur ton tweet 17 de l'heure 4, j'ai pas liké parce que
pour le coup, c'est plutôt.
Non, au contraire, c'est un liker. C'est un stalker creepy, quoi.
C'est ça, c'est plutôt un DM qui arrive à 2h du mat. Bon, c'est sympa, ça fait 85 likes en 3h. Va falloir se calmer. Ça arrivait 2-3 fois en 4 ans, mais c'est quand même arrivé. Sauf une fois où la personne s'est vraiment énervée, j'ai pas pu expliquer. J'ai expliqué depuis 2 minutes. Dans ce cas-là, je me suis fait bloquer. Ça arrive.
Tu t'es fait bloquer parce que t'as trop liké.
Oui.
Oh là là, c'est incroyable. On est parti tellement loin dans ce débat.
La pression du smartphone vibro. J'y peux rien. Ah oui, désolé. Hein.
C'est du grooming jusqu'au sang, quoi. Tu sais, le mec à la fin, il fait écoute, j'ai
imagine, t'as un mec inconnu qui tout d'un coup like tous tes tweets. Ben vraiment, genre 120 tweets.
En général, ça se passe plutôt sur Instagram quand une personne veut se faire remarquer.
Oui, veut te pinguer.
Là, c'est du social hit.
Moi, ça me dérange pas.
Ça te dérange pas, toi?
Si c'est un mec qui a une bio un peu nationaliste, tu vois.
Bah, encore mieux, parce que il va être servi. Non, mais en fait, toi, à la fin de la journée, est-ce que ça t'est arrivé de te coucher en disant « j'ai pas assez liké » ».
Alors, non, pas à ce point-là non plus.
Bon, bah, t'as le fear of missing out et puis t'as le fear of, je sais pas,
of no liking it.
No liking it.
Non, mais c'est bien. Si toi, t'as pas ce côté-là, bon, bah, continue à donner de l'amour.
Alors, justement, pour éviter justement d'arriver à ça, il y a aussi une petite routine que j'ai mis en place tous les.
je me lève à 3h du matin.
Non, alors non, c'est
un
pas une morning
routine. 100 likes, un caca, 200 likes.
C'est ça. C'est pas une morning routine. Pour le coup, c'est un truc qui arrive 2-3 fois dans l'année. C'est de faire un tour justement de mes follow. Et de virer 45% des follow.
Ah ouais.
Je fais un ménage par le bas. Et bizarrement, ça.
Je crois que c'est un psychopathe, en fait. Parce que c'est un mec, il adore, il adore, et t'imagines, tu likes 85 tweets d'un mec, et le lendemain, tu l'unfollow. C'est un truc.
Non, pour le coup, c'est pas cela, justement, que j'unfollow.
Ah d'accord, ok.
Il y a des discussions entre Bastien et Fibre. Tu t'es fait qualifier de psychopathe par Fibre Tigre. Hein. Je pense que là,
Oui, mais je le prends bien, c'est un achievement.
Elle est platine, celle-là.
Là, j'ai l'achievement Steam, c'est bon, je suis content.
Et alors, juste une dernière question avant qu'on passe la parole à d'autres personnes. Est-ce que toi, tu t'attends à la même chose des gens qui te suivent ou de tes proches?
Non.
Donc, tu donnes sans demander forcément.
Voilà, c'est complètement.
Il est parfait, ce garçon, il est parfait.
Je donne sans attendre. De toute façon, je sais très bien que je reçois très peu. Donc, bon, voilà, hein, je vis bien maintenant.
maintenant qu'il y a tout son poids.
Mais non, regarde, tu vois, tu viens, on t'a reconnu, s'est quitté, tu vois, t'as créé un truc.
Il y a ça, et puis du coup, il y a aussi des personnes avec qui je suis en contact sur certains réseaux sociaux depuis 2-3 ans. Au début, ils m'ont pris pour un stalker fou. Après, ils ont appris à me connaître. C'est un peu le problème. Et en fait, je me retrouve des fois à partager une connerie, un truc que je pense pas important. Et eux vont justement venir liker, venir RT. Et pour le coup, je le vois plus comme un achievement de vie parce que.
Keikaku.
Keikaku. C'est oh putain! Ce mec, ça fait 6 mois que je le RT 3 fois par semaine. Merde, j'en ai un.
Alors,
putain, yes.
J'avoue.
Ça vient de valider mon style de vie.
J'avoue que quand il y a des gens qui me like beaucoup, qui m'ont beaucoup, je vais voir leur compte et je like 2-3 tweets au hasard et pour les remercier.
Oh là là, mais vraiment.
Non, mais vraiment.
On va vous mettre dans une chambre dans le noir.
En plus,
dans un Airbnb avec un tiroir.
Le petit truc que les gens qui utilisent Instagram connaissent très bien, mais qui est moins utilisé sur Twitter, mais qui a la même efficacité, tu likes pas le premier tweet, tu descends, hop, 10 tweets, tu likes un tweet un peu vieux, tu vois, et là le mec dit, oh putain, il a lu ma timeline et tout. Alors, tu vois.
Faut pas trop remonter non plus.
Ouais, voilà.
Si tu commences à remonter 3 ans avant, là, c'est.
Ah non.
Là, c'est creepy.
Ah, les deux qui se parlent, on doit faire un podcast là-dessus.
Mais non, mais attends, j'ai d'autres histoires.
On appelle ça un nouveau podcast. Il faut le retour.
C'est très, très beau. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner Oui. Allons-y. Sur ce qu'on appelle donc. L'enfer un peu du like des autres, le social grooming, la pression à faire exister autrui.
Ouais, alors moi peut-être je suis dans le sens inverse, c'est-à-dire que déjà j'ai peut-être un conseil, bonjour, passage, j'ai peut-être juste un conseil, genre si vous avez ce genre d'amis qui vous demandent des likes, mais virez-les. Genre à quel moment
C'est pas si simple.
Ah, c'est honnêtement...
Quand c'est ta mère.
Ouais. Mais je lui ai dit, maman, casse-toi, les autres.
Honnêtement, moi j'ai dit
quelle ingratitude.
Non, mais j'ai dit, avec tout l'amour que je te porte, maman, tu arrête. Me saoules. Voilà, arrête.
Moi je te sens plutôt ça, quasiment, de dire je suis pas comme ça.
Mais oui, mais ça, en fait, ça se fait insidieusement. C'est pas comme si d'un seul coup t'avais un pote qui exigeait des likes. Tu vois, ça se fait.
Ouais, ça se fait insidieusement. Mais après, je sais pas, personnellement, j'ai pas. Enfin. Ça se fait insidieusement. Ouais, si, genre, t'as pas liké. Dernier dessin que j'avais fait, j'ai un pote qui est illustrateur, machin, ou t'as vu le tout dernier truc que j'ai fait ou quoi, c'est ça que t'entends par insidieux, mais je lui dis, mais non, je l'ai pas vu, l'algorithme Facebook il est pété, ou alors j'ai pas liké parce que j'ai pas aimé, tout simplement, tu vois. Genre, tu sais, être honnête,
moi je suis tout à fait d'accord avec toi.
J'ai pas liké, fin.
Est-ce que tu aimes des trucs quand même, contrairement à lui là?
Ouais, non, mais alors par contre, je tiens à dire que ces deux personnes sont terrifiantes, genre vraiment, tu vois. Genre, non, mais je t'aurais bloqué aussi, tu vois. Mais
donc on peut être dans le sens inverse.
Mais ouais,
c'est l'âme enfin.
L'honnêteté, tu sais, être honnête dans le like un peu, tu vois. Genre j'aime parce que j'aime vraiment bien. Pas par compassion.
Je suis d'accord. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un que genre j'ai pas liké ta photo, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que la photo m'intéressait pas. Moi je sais que ça c'est très très mal pris par exemple en général.
Moi je l'ai dit à ma meuf.
Alors,
du coup, elle est partie. Elle était là tout à l'heure. Non, mais oui, c'est déjà arrivé.
Est-ce que vous avez déjà réussi à dire à quelqu'un, mais en fait, non, tu vois.
Moi, franchement, j'ai pas été mis devant la personne qui vraiment dit, dis donc, t'as pas liké. Donc, dans le couple, oui. Parce qu'en fait, quand elle poste, elle s'attend à ce que j'auto-like en 15 secondes. Mais...
Ce que Mélissa disait, le fameux. Ça n'a aucune valeur quand tu le fais, ça a une valeur quand tu le fais pas.
Voilà. Ouais. Mais après, parce que ma meuf, on couche ensemble, tu vois. Donc je me dis qu'il y a quand même des contrats moraux. en non, plus,
c'est pas, un coït ne t'oblige pas à liker quelqu'un.
Dans nos règles à nous, si, voilà. Mais de la part d'un
tant
pote.
Tant que les règles sont bien écrites comme dans un bon forum au début.
Vous n'avez pas charté.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il ne faut pas liker trop vite. Parce que si tu likes dans la seconde, ça sent le bot.
Ah, ça sent le bot.
La diversité des règles.
Ça, c'est vraiment le like.
Mais si, pourquoi tu essaies d'échapper à ta condition de bot alors que t'en es un? Tu vois, je veux dire, à un moment, assume qui tu es.
Non,
déploie tes ailes.
Moi, si tu un jour, si je suis devant Dieu et que je suis jugé, je dirais tous mes likes, je les ai fait à la main, tu vois. Voilà. Il n'y a pas eu de bot.
Je pense que Dieu juge les likes, genre.
Ouais. Non, mais c'est les intentions.
On va prendre une dernière. Je voudrais finir sur cette phrase magnifique de fille, mais je voudrais prendre quand même un dernier témoignage d'une personne sur votre rapport à la demande des autres. Donc voilà, votre famille, votre petite amie. Une personne surgit du fond du public. Elle arrive en courant de manière très gracieuse. Elle va faire une roulade avant. Regardez bien.
Grand, donc.
J'ai tenté. Bonsoir.
Merci. Bonsoir. Un tout petit mot, très rapide, sur l'économie du like, parce que l'économie, c'est pas que retenir, c'est donner aussi. Et moi, j'y pense beaucoup ces derniers temps. J'ai même fait une expérience de moins liker certaines personnes que je likais beaucoup. Et j'ai vu que ces personnes-là, du coup, te likent plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une balance, un espèce d'élastique, tu vois, qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des relations saines et des relations malsaines. Et c'est plus une question de quantité et d'échange qu'une question d'absolu.
Est-ce que c'est la fameuse technique de pick-up artist de dévaloriser ta target?
Tu es inaccessible.
Ils sont forts quand même, ils sont super forts.
On peut liker moins une personne, d'un coup la personne va dire ah. Et du coup elle va, donc c'est intéressant parce que là on est dans l'entre-deux là. Tu peux liker moins et en fait la personne va te.
On n'est pas du tout dans l'entre-deux, on est dans le machiavélisme le plus total. Là.
Là, il a dit que c'était une expérience.
Non, mais à la base, je crois que monsieur voulait juste liker moi parce qu'il voulait liker moi. Il voulait pas savoir s'il allait plus se faire remarquer en se faisant plus rare.
Mais son expérience,
je sais même pas.
Son expérience, ce qu'elle valide, c'est qu'il y a un phénomène inconscient du like. C'est-à-dire que moi, je vous dis, je like sans regarder les posts. Vous, peut-être, vous regardez les posts, et encore à démontrer.
Mais on est tellement old school fibre.
Là, il vient d'expliquer que finalement, la fréquence de like n'est pas liée à la teneur des posts, puisqu'il a eu des likes en retour qui n'étaient pas liés à ses posts. Mais elle à sa fréquence dans laquelle il donnait des likes. Donc finalement, on fonctionne par des mécanismes inconscients et c'est du social grooming. On s'envoie des cœurs, on s'aime. Voilà. Et ce qu'on dit entre temps, ça n'a pas trop d'importance.
Je ne sais pas quoi dire. On s'arrête dessus ou pas?
Oh ben, je pense, ouais.
Allez, on s'arrête dessus et on attaque la dernière FAQ.
FAQ.
Alors, nous avons une question de Tanuki, un habitué du forum. Comment ça va, Tanuki?
Ça va, ça va.
Oula, ce petit ça va. Dis-moi énergie, dis-moi un petit énergie.
Énergie.
Ah, il est beau. Alors, Tanuki, tu te rappelles de ta question ou...
Ouais, à peu près.
Vas-y.
Pour vous les chroniqueurs, si vous aviez, si vous deviez créer une application pour votre grand-mère ou un aïeul, qu'est-ce que ce serait?
Ah ah. Alors,
je vous laisse réfléchir. C'est juste ça le brief.
Je vous laisse réfléchir 2 secondes.
Obsequio.
T'es affreux, tu vas pas mettre son application sur
Pour faciliter les démarches.
Mais la personne, c'est affreux. Non, mais sur son téléphone à elle, c'est pas pour toi. C'est pas une application pour toi gérer le cadavre de tes aïeux.
Mais non, mais c'est pour qu'elle puisse prendre le temps de tout préparer.
C'est affreux.
Ah, je sais.
T'es dégueulasse. Sylvain.
Ce serait une application où elle aurait le visage de tous ses petits-enfants.
Ouais.
Et en cliquant sur un visage, elle aurait un feed. Un feed Snapchat. Qui agrégerait les stories, les Instagram, les tweets,
les posts
Facebook.
Et il te l'envoie par la poste. Il y a
c'est pas vrai.
À ton mariage, il y a quelqu'un qui nous l'a pitché, ce truc-là.
Ah ouais?
Mais oui.
Attends, il t'envoie des feeds par la poste?
Je te rappelle pas, mais oui. Incroyable. C'était une de tes invitées qui disait que justement, ils avaient abonné leurs grands-parents à ça et qu'en fait, sa grand-mère était contente parce que du coup, elle recevait l'actualité de ses enfants sous forme de journal.
Mais non!
Mais si!
C'est trop bien ça! Avec ma grand-mère, c'est trop bien!
Mais faut le faire avec tes targets, attends, c'est un truc.
Mais comment elle fait pour liker sur du papier?
Bah, c'est parce que c'est.
On vous rappelle que les grands-parents sont une source inépuisable, telle fibrotique, de likes et d'amour, même quand vous le voulez pas.
C'est vrai.
Fibrotique, qu'est-ce que tu ferais pour tes aïeux?
J'ai remarqué que les vieux, qui ont pourtant un pouvoir d'achat vraiment beaucoup plus fort que nous, n'aiment pas trop voyager.
Hein?
Ils ont un peu peur de voyager, tout à fait. Ils ont un peu peur de prendre l'avion, ils ont un peu peur de voir de nouvelles cultures, tout ça. Et pourtant, c'est le moment ou jamais avant de mourir. Donc, je ferais une sorte d'application où ils te montrent de beaux paysages, la bonne nourriture, et te montrent que c'est facile où y aller. Et voilà.
The Beautiful Déambulateur?
Ouais, par exemple. Voilà.
Un truc un peu comme ça.
The Beautiful Déambulateur. C'est moi qui suis horrible après.
C'est au bout de 2 ans, vous avez atteint Marne-la-Vallée. C'était dégueulasse. On va dire que c'est Daz qui l'a dit.
Oh,
Daz, pourtant.
Bien sûr.
Mélissa, est-ce que tu avais une idée de ce que tu ferais pour tes petits grands-parents?
Pour ma grand-mère, qui n'a pas de smartphone, qui ne comprend toujours pas ce que c'est Internet. J'ai vraiment raté ma vie. Je ferais un téléphone avec une unique appli pour apprendre à s'en servir.
Mais alors, du coup,
fois qu'elle aurait vraiment passé tous les tests de bonne compréhension... Ça ouvrirait vraiment le téléphone.
Ah, pas mal.
Oh, c'est le prélude dans Zelda.
Espèce de permis de conduire.
C'est le plateau du prélude dans Zelda, c'est horrible.
T'as une petite fée partout, tu te bats. Non, non, clique sur cette icône. Va par là. Très bien. Il y a des idées pas mal dans le temps. Hein. Il y a des idées pas mal.
On va vite.
Bon, c'était le moment où on inventait des apps et des startups. Et on va reparler des apps, des startups, mais aussi de la Silicon Valley, mais aussi d'Internet, mais aussi du web. Et on va aller jusqu'au fondement du web, dans lequel.
Fondation.
Daz va s'amuser. À donner un grand coup de pied.
Sujet numéro 4.
30 ans plus tard, les valeurs fondatrices sont prêtes à s'effondrer.
Les valeurs fondatrices de quoi? On ne sait pas. Quelle est cette titraille?
Oh là là, de te plaindre.
Alors, à moins d'avoir vécu sous un rocher ou dans une cave ces dernières semaines, vous n'avez pas pu louper le scandale Cambridge Analytica. Il a secoué la planète et il a mené Facebook devant le Congrès. Cambridge Analytica, donc, c'est le nom de cette boîte qui s'est spécialisée dans la psychographie, soit l'établissement du profil psychologique des gens pour ensuite mieux les cibler et leur faire faire plein de trucs dark, comme par exemple voter à droite.
Ce qui est reproché à Cambridge Analytica, c'est pas d'être des apprentis sorciers ou des experts fils de pute, c'est d'avoir filouté pour aspirer plus de profils Facebook que prévu. Donc 87 millions pardon, au lieu des 270 000 de départ. Et pour ça, en fait, il n'y a pas besoin de hack. Il n'a pas fallu hacker Facebook, il suffisait juste d'utiliser une fonctionnalité qui était native et disponible jusqu'en 2015, qui permettait de récupérer les infos des amis des personnes qui autorisaient une application tierce à accéder à son profil. Donc ce que cette affaire révèle, c'est un manque total de contrôle de la part de Facebook sur les données des utilisateurs que ces derniers, donc vous et moi, pensaient sécuriser et surtout une absence totale de contrôle sur ce que les tiers pouvaient faire de ces données. Et là, les briscards de l'Internet se servent un brandy, se calent dans leur fauteuil vintage et soupirent bruyamment parce qu'avec cette affaire, 30 ans après sa création, tout porte à croire que l'Internet des débuts a tapé un demi-tour au frein à main en ayant pris soin de nous faire descendre de la voiture et de nous souhaiter bonne chance pour la suite avant de repartir dans un nuage de fumée vers le soleil couchant. Rappelons-nous ensemble des valeurs fondatrices d'Internet. Peace, unity, love and having fun. Non, pardon, ça c'est celle du hip-hop. Rappelons-nous ensemble des valeurs fondatrices de l'Internet. Le savoir. Oh yeah! Le partage. Oh yeah! La gratuité. L'anonymat. Oh yeah! Et la liberté d'expression. Oh yeah! Eh ben tout ça, les gars, c'est derrière nous. Parce que ce que révèle cette affaire Cambridge Analytica, c'est que les internautes insouciants ont appris brutalement trois choses cruciales. Premièrement, nos données ont de la valeur. Deuxièmement, l'esprit humain est facilement manipulable. Troisièmement, des gens cherchant le profit sont au courant des points 1 et des points 2. Et logiquement, en réalisant ça, le peuple maintenant, il a peur. Et le peuple qui a peur, il réagit comment ? Ben, il réagit comme un expert comptable qui se retrouve en prison. Il cherche la protection. Et qui, tapis dans l'ombre, n'attendait que ça, que le peuple lui demande de faire régner l'ordre sur Internet ? Qui, hein ? Qui ? Eh oui, le gouvernement. Car désormais, ce sont les internautes qui interpellent leur propre gouvernement pour venir fliquer un peu ce qui se passe. Non mais vous rendez compte, Facebook ne protège pas nos données. Pire, ils les vendent. Jeanne, au secours ! Alors même s'il n'est pas mort, Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, doit se retourner dans sa tombe. Parce qu'offrir nos autoroutes de l'information aux 4x4 blindés des patrouilles gouvernementales, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'utopie Internet. Utopie dont les piliers évoqués plus tôt ont déjà été bien malmenés par l'arrivée dans la partie des GAFA et autres firmes tentaculaires. L'anonymat tel qu'on le conçoit, par exemple, il est guère plus pratiqué que dans des ruelles sombres et malfamées d'Internet, 4chan et ses semblables. Le savoir, s'il reste accessible, il n'est réellement validé que via des plateformes qui font autorité, comme Wikipédia, Quora ou Stack Overflow. La liberté d'expression, elle n'est invoquée que pour excuser des dérapages racistes ou sexistes sur des sites de psychotiques refoulés. Le partage de contenu sans poursuite judiciaire nécessite lui de déployer un arsenal technique pour être sûr de ne pas se faire gauler. La gratuité, bah c'est de l'histoire ancienne, à l'heure des offres payantes par abonnement et autres paywalls en tout genre pour accéder au contenu. J'évoquerai pas Patreon pour des raisons personnelles qui me semblent assez évidentes. Même la discussion autrefois foisonnante qu'on avait sur les forums libres et ouverts, quand ils fonctionnent, je sais, merci, se déplace et s'encapsule dans des applications de messagerie propriétaires comme WhatsApp ou Telegram, qui fonctionnent donc sur un modèle de groupe de discussion fermé. Vous l'avez compris, à un moment où la neutralité du net est en péril, car plus vraiment comprise par le grand public, habitué aux offres de leurs opérateurs, aux offres triple play, nul besoin d'être un devin pour comprendre qu'on arrive à la fin d'un cycle. Alors on se retrouve là, en pleine nuit, au milieu de nulle part, en regardant Internet s'éloigner à toute berzingue vers l'horizon, dans sa DeLorean, ou sur la moto de Canada dans Akira, on sait plus trop. On se demande à quel moment on a merdé, à quel moment on aurait dû percevoir... Ah, un message, je sors mon smartphone, je regarde l'écran, c'est un message WhatsApp en provenance d'Internet. Ce message me dit « C'est pas toi, c'est moi, je suis désolé ». Internet présente ses excuses. Et pour de vrai, un papier a été publié sur le New York Magazine dans lequel une quinzaine de personnes ayant participé à faire d'Internet, Internet, donc il y a Ellen Pao de Reddit, Richard Stallman, donc le chef des libristes, ou encore le mec Zuckerman, je crois qu'il s'appelle, qui a inventé le pop-up. Donc lui, si je l'avais devant moi, bref. Donc toutes ces personnes-là, il y en a 15, déroulent en s'excusant les 15 étapes clés de l'histoire d'Internet qui a amené à ce qu'on considère maintenant comme le point de rupture. Et là, on a envie de lui dire à Internet que c'est pas le seul fautif. Alors ok, dans un laps de temps relativement court par rapport à l'histoire humaine, il a permis de faire gagner des élections à un des pires présidents qu'un pays ait jamais connu, alors que je parle de Macron ou de Trump, c'est à vous de choisir. Il a permis de faire en sorte que des gens harcelés à l'extérieur puissent continuer à être harcelés une fois rentrés chez eux. Il a permis d'aider des déficients mentaux
à se regrouper, échanger et s'organiser pour acheter les mêmes doudounes bleues et louer des hélicoptères pourris pour barrer la route de gens qui cherchent un abri. Il a permis de vendre de la drogue par correspondance. Il a permis de précariser une partie de la population pour transporter ou livrer les colis d'une autre partie de la population. C'est vrai. Mais dans le même temps, Internet, il a aussi permis le podcasting, le streaming, le e-sport. Internet, il a permis la cagnotte de Locan pour son iPhone X. Internet a permis l'appart de Didi pour faire ses déjeuners. Internet a permis les BD de Laurel. Et ça... Internet a permis aussi la vente de drogue par correspondance. Et surtout, Internet a permis d'aider des déficients mentaux à se regrouper, échanger et s'organiser pour acheter les mêmes doudounes bleues, louer des hélicos pourris et faire une rando dans les Alpes pour déplier une bâche géante exigeant de la société qu'elle accepte les déficients mentaux. Alors on a envie de lui dire à Internet qu'on a encore un sacré bout de chemin à faire ensemble, qu'il arrête de se jeter la pierre. Parce que s'il lui a permis tout ça, c'est que la société le voulait aussi. Et surtout qu'il arrête de se miner en pensant que trois algos un peu techniques et un mec avec des cheveux roses ont pu mettre au pouvoir un populiste. Il n'en avait pas besoin, puisqu'il est populiste. L'avis qui prévaut concernant l'influence de Cambridge Analytica sur le scrutin US est de croire que cela, c'est... Et croire que cette influence-là, c'est prêter en fait beaucoup plus d'influence à la firme qu'elle n'en a en réalité. Alors on lui répond à Internet, par texto. On lui dit « c'est pas ta faute, Internet. Internet, si tu reviens, j'annule tout. »
On peut applaudir Das, quel beau mot d'amour à Internet.
Merci.
Alors, Das, tu parles notamment de ce papier avec 15 piliers du web, littéralement, des personnes qui s'excusent. Il y a eu beaucoup d'articles, notamment, qui sont passés aussi dans d'autres magazines, dans Wired, sur mea culpa de divers investisseurs, start-upers, gens qui sont depuis 30 ans là-dedans et qui ont vécu, enfin, qui étaient dans cette utopie d'un Internet complètement non réglementé, avec une liberté d'expression totale, un village global total où tout le monde pouvait se parler avec tous,
ouais.
La gratuité, etc. Et tous ces piliers sont en train d'être remis en cause les uns après les autres, alors qu'ils étaient, je pense qu'il y a encore 10 ans, si quelqu'un disait « je pense qu'il faudrait dire ce qui se dit sur Internet » ou peut-être civiliser le Far West qui est Internet, puisque c'était les paroles de M. Sarkozy.
Mais il aurait été moqué.
Il a été largement moqué, et on a l'impression que là, depuis maintenant un an, et tu en as parlé dans ta chronique d'Az au mois de septembre, sur le créateur du like qui commençait à regretter. Tu en as parlé, Mélissa, dans ta chronique lors de la Cali Night de Lille sur Brotopia, sur toute cette culture. Il y a une remise en cause globale donc de la Silicon Valley, de l'innovation et donc d'Internet et des codes d'Internet. Et on est en train, comme tu dis, Daz, nous-mêmes de le demander aujourd'hui. Le gouvernement, pouvez-vous réguler Internet, ce qui était complètement incroyable il y a 10 ans. Est-ce qu'on peut censurer des gens qui disent des choses vraiment, vraiment méchantes, même si on casse la liberté totale d'expression, la fameuse, tu en parlais avec Reddit et le dernier scandale de Reddit. On veut bien payer des choses. On veut bien payer pour des choses plus quali et ne pas payer pour des choses moins quali, avoir un truc à deux vitesses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sorte de grand virage et le fait qu'il y ait des gros low kicks qui ont été balancés dans les piliers du web, tel qu'on le connaît depuis maintenant 30 ans, puisque c'est quasiment 88 où on peut parler de naissance du World Wide Web? Fibre.
Déjà, est-ce que Daz peut faire son mea culpa parce qu'il a répondu au questionnaire de Cambridge Analytica?
Ah, c'est vrai.
Voilà. C'est vrai. Je me suis même dit en y répondant, parce que je voulais savoir si j'étais plutôt introverti post-flex blog.
Quelle princesse Disney es-tu, Daz?
Et en fait, je trouvais que le nom Cambridge Analytica, ça sonnait ultra bien, en fait.
Et oui, puisqu'ils ont volé le nom à la vraie université.
Voilà, donc j'ai vu le truc et j'ai dit, bon, c'est des mecs sérieux.
C'est Steve Bannon qui a trouvé le nom, qui leur a proposé de prendre son nom. Figure-toi. Mais c'est marrant parce que j'ai fait le test pour savoir si mes amis avaient répondu au quiz et ils m'ont dit non.
Bah, si, non plus. Moi je l'ai fait.
Okay.
C'est bizarre.
Mais de toute façon, ils ont tes coordonnées à cause de lui.
Ouais, ouais.
Parce que t'es à tes amis.
C'est vrai qu'on est peut-être dedans à cause de toi. Est-ce que. Oui. Alors, déjà, il y a un énorme revirement sur des choses qui paraissaient intouchables. On va demander à nos auditeurs sur place et les gens qui nous écoutent en ce moment de revenir dans leurs souvenirs d'il y a quelques années où vraiment toucher à ce genre de choses était complètement tabou. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une demande comme un ouf de la part des internautes. Fibre.
Je suis en accord avec Daz sur la partie où il dit c'est pas trop grave dans le fond. Pour deux raisons. Parce que d'abord. Quand Tim Berners-Lee et les consorts font Internet, c'est des mecs qui ont un ordinateur et qui les relient entre eux. Aujourd'hui, on a Google. Vous dites ouin ouin, Google prend nos données ou Facebook prend nos données. Mais attendez, vous avez Google et c'est gratuit. Vous avez Google Earth et c'est gratuit. Vous avez Google Maps, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous avez des mecs les plus intelligents de la Terre, des technos incroyables et des hectares de serveurs qui tournent jour et nuit.
et c'est gratuit. Et vous voulez que ce soit gratuit et qu'en plus il n'y ait pas des données tout ça. On a envie de leur donner des calottes derrière la tête, ces gens-là. Non, mais c'est vrai. Parce que, et on va dire, il y a vraiment trois types de personnes. Il y a les millennials qui s'en foutent parce qu'ils sont complètement dans le système. Il y a les gens qui comprennent qu'effectivement, ben, il faut à un moment donner quelque chose, qu'ils nous prennent quelque chose parce que rien n'est gratuit. Puis il y a les gens qui estiment que c'est gratuit, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, et il y a un deuxième problème, c'est les journalistes qui vivent dans le traumatisme de l'élection de Trump. Et qui essaye depuis 3-4 ans d'essayer de comprendre pourquoi il a été élu, tu vois,
en fait,
pourquoi
il est monté,
il a été élu il y a un an, mais pourquoi il est monté, pourquoi il a été élu, et ils essaient de trouver de tous les moyens possibles des excuses en disant oui c'est l'internet, aujourd'hui c'est Cambridge Analytica, l'affaire est trop belle. Non, tout simplement, à un moment, la première puissance économique du monde, elle fait ce qu'elle veut et elle élit Trump, et si ça se trouve Trump il va peut-être faire une déclaration de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, tu vois, il va tous nous baiser là-dessus. Non mais je veux dire, voilà, à un moment tu vois, ça
est-ce qu'on pourrait rajouter en post-prod la musique de Mario Kart quand il était emprunte les raccourcis de Mario Kart comme ça.
Non mais je veux dire, il faut, voilà, Cambridge Analytica, c'est comme le dit Daz, c'est peut-être rien du tout en fait.
Oui,
je veux dire, à un moment, je vois pas trop à quel moment ça a fait voter les Américains Trump et ça a fait élire Macron, tu vois. Ça a peut-être influencé 5% ou 10%, mais
bah c'est ce qui lui manquait, voilà. En fait.
En fait, l'histoire Cambridge Analytica, le storytelling qui veut qu'en fait la boîte ça soit une engeance démoniaque, genre l'Empire Galactique
de Monsieur Mercer, Robert Mercer.
Voilà. En fait, c'est l'histoire qui a été rapportée telle qu'elle a été rapportée par le Guardian, qui en fait avait comme principal interlocuteur Christopher Wiley, qui est donc le
whistleblower,
le data genius de la boîte. Mais en fait, les techos qui se sont penchés sur le sujet ont désamorcé ce truc-là en disant « Attention, il ne faut pas prêter plus d'importance à cette boîte qu'elle en a eu réellement. » Au départ, elle était derrière Ted Cruz. Il s'est quand même fait exploser par Donald Trump. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne pas.
Elle était derrière le Brexit
pas.
Aussi.
Voilà. Ouais, oui, enfin, pareil. Mais enfin, tu vois, il faut quand même prendre l'histoire parce qu'elle existe réellement. Ouais. Mais y mettre une petite touche.
Après, du coup, là, je pense qu'il y a deux affaires. Il y a Cambridge Analytica qui est notre entrée actuelle. Mais après, il y a...
Après, oui, il y a le revirement, ça, je suis d'accord.
Tous les piliers qui paraissaient inamovibles du web qui sont remis en cause de manière...
Oui, mais tu vois, par exemple, quand...
En cœur d'un coup.
Quand Mark Zuckerberg, il est devant le Congrès américain et qu'il dit « je suis désolé
».
En fait, il n'est pas désolé par rapport au fait que Donald Trump ait été élu. Il est désolé de ne pas avoir su protéger les données de ses utilisateurs.
Mais il s'en branle, il est désolé parce qu'il veut être un good guy, c'est tout.
Ok, mais n'empêche que ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas d'avoir permis à Donald Trump d'être élu. Parce que c'est le Congrès qui lui pose la question quand même.
C'était d'avoir trahi ses utilisateurs.
C'était voilà, d'avoir permis à une firme de choper 87 millions de profils, des données de 87 millions d'utilisateurs de sa plateforme sans en demander 87 millions. C'est ça qu'on lui reproche à Mark Zuckerberg, c'est ça qu'il reproche à Facebook. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut que les gens réagissent, et que certains réagissent en se disant, en fait, les données, je savais que la pub les exploitait, etc. Par contre, je ne pensais pas que ça pouvait servir à des dessins comme ça.
Est-ce que le gouvernement doit légiférer ?
Ben, il l'a déjà fait, du coup.
Non, toujours pas pour l'instant. Là, aux États-Unis, il y a rien. Il y a une audition qui s'est passée, mais pour l'instant, il y a rien.
Ouais, d'accord.
Je vais te dire un truc qui est affreux et complètement cynique. Ah bon ? Je pense
mais
vraiment.
Tu vas le dire ou tu l'as déjà dit ?
Je le dis tout le temps, mais là, j'en dis encore une. J'en rajoute une couche. Je pense vraiment que la déclaration d'intention de, enfin, le mea culpa de Tim Berners-Lee et compagnie, en fait, il n'a pas de sens. Parce que l'Internet qu'ils ont fondé, il s'est complètement transformé. Les services n'ont plus rien à voir.
Mais du coup, si l'Internet n'a plus rien à voir, justement, est-ce que les valeurs fondatrices de ce web n'ont plus de pertinence ?
Mais ils n'avaient même pas... Le mec, il était au CNRS. Il a juste créé un machin. Il n'y avait pas de valeur fondatrice, dans le fond. Et là, ils font ce truc pour faire parler d'eux. C'est une crise d'ego, mais complètement. Je suis sûr que c'est une crise d'ego.
N'importe quoi.
Mais si.
Non, mais...
L'inventeur du pop-up, lui, il a quand même des raisons de s'excuser. Tu vois.
Non, mais l'inventeur du pop-up, le mec, il était OSEF. Pourquoi tu vas signer cette truc-là ? C'est juste pour qu'on parle de toi. Je pense que le mec, okay. Il n'en a rien à branler.
Donc Fibre, imaginons qu'il n'y ait pas eu cet article-là. Est-ce que tu penses quand même que les fondations d'Internet sont mises à mal en ce moment ?
Alors, on ne va pas aller des fondements, parce que c'est mieux de pas aller des fondements. Le fondement du Internet.
Moi, comment dire, Internet, au tout début, c'était des mecs à San Francisco qui s'envoyaient des emails alors qu'ils étaient dans la pièce à côté. On disait, ah, c'est bizarre, c'est des hippies, tout ça. C'était vague, tu vois. Je veux dire, il y avait le partage de la connaissance, il est encore là, plus que jamais.
Non, mais Internet en 98, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'était déjà énorme. Il y avait déjà toutes ces valeurs. Il y avait l'affaire de est-ce que Yahoo est responsable des objets nazis vendus sur ses enchères. Il y avait tous ces débats.
Moi, je pensais encore 10 ans avant. Je pensais à l'Internet de 92.
Mais tu as 30 ans d'Internet. Là, on est au bout de 30 ans en 2018.
Oui.
Et là, depuis un an, il y a une remise en cause, c'est-à-dire que les gouvernements sont en train de dire « Ok, maintenant, on va rentrer dans la danse, on va vous légiférer. » Les gens sont en train de dire « Oui, le payant OSEF. » Les plateformes d'expression sont en train de dire « En fait, on va censurer des gens qui disent des choses qu'on ne veut plus qu'ils disent, alors que c'était impossible à dire avant. » Tout ça, ça n'est pas apparu en 99, en 2001, en 2002, c'est apparu là, cette année, en fait.
Oui et non, parce que depuis très longtemps, quand même, on dit qu'il faut légiférer Internet. Après,
Je ne sais pas, ça passait pas. Sarkozy, quand il l'a dit...
C'est un débat qui existe depuis longtemps, mais où les internautes ont toujours été contre.
J'ai mal exprimé. Quand je disais le sujet tabou, c'est que les gouvernements ont toujours voulu réguler, notamment les plateformes, et la liberté d'expression, et ce que les internautes se disent, et la vie privée, et Adopi, tout ce que tu veux. Mais ils étaient ou tournés en bourrique, ou il y avait des levées de boucliers de l'EFF, de beaucoup de gens sur Internet, et des internautes en général.
On a manifesté, on a mis des avatars tout noirs. Incroyable. On a fait toutes ces choses-là. Hein.
Et aujourd'hui, on a l'impression que, comme dit Daz, c'est les gens qui disent là, c'est trop loin, il faut qu'à un moment, tout ça, ça arrête les conneries. Et qu'on...
Si j'étais conspirationniste.
Si j'étais complotiste. J'ai un ami conspirationniste qui m'a dit que.
Si j'étais conspirationniste, je dirais que c'est depuis toujours, depuis qu'il y a les sites de Juarez, depuis qu'il y a les Napster et compagnie, qu'il y a des institutionnels qui voulaient légiférer et contrôler l'Internet. Et comme le citoyen, il y trouvait son compte, il aimait bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, Cambridge Analytica, la présence de Mark Zuckerberg chez le gouvernement, tout ça, moi, en tant que conspirationniste, je dirais peut-être que c'est une conspiration, c'est un montage pour nous faire passer la législation de l'Internet.
Est-ce que c'était Zuckerberg sur la Lune ou pas en 69? Je ne sais pas.
Tout ça n'était
Sylvain Mélissa, je ne vous ai pas beaucoup entendu.
Ce qui est différent, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a des... On ne demande pas au gouvernement de réguler Internet, on demande au gouvernement de réguler des entreprises privées qui font la taille d'une nation. Et ça, c'est complètement nouveau.
Qui font une énorme partie d'Internet, quand même.
Exactement.
Si tu leur demandes de contrôler les GAFAM, en fait, tu contrôles 70% d'Internet.
Et c'est pour ça que, quand on parle des pierres fondatrices d'Internet, etc., pour moi, Facebook n'a jamais représenté cette idéologie d'Internet. Pour moi, même si Mark Zuckerberg représente une grande partie d'Internet, il ne représente pas ses valeurs fondatrices. Donc, demander au gouvernement de réguler Facebook, pour moi, ce n'est pas la même chose que de demander au gouvernement de réguler Internet.
Est-ce que quand Reddit met fin à la liberté d'expression et ferme des subreddits de suprémacistes ou des fameux incels dont on parle après l'attentat de Toronto, etc., etc., est-ce que tu dis, ok, c'est bien de censurer des gens qui disent des choses mal, ou est-ce que tu dis, la liberté d'expression qui était une valeur sacrée du net, en fait, elle vient d'être tuée?
De la censure et de la modération, il y en a toujours eu sur les plateformes. Les plateformes, après, sont maîtres de leur contenu.
Reddit était full open pendant des années.
Ouais.
Après, ça dépend si tu alignes le mode de fonctionnement d'une entreprise mondiale au mode de fonctionnement d'un État. Par exemple, nous, en France, la liberté d'expression, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis.
Bien sûr. Juste, après, je passe la parole à droite. 4chan, il y a eu la première affaire de censure de 4chan, où je pense que c'était sur le leak général des célébrités, je crois, comme ça. Où à un moment, Mou, donc le fondateur, a dit stop. Donc c'était la première fois aussi. Il a censuré ça, il a bloqué ça, et après il a quitté l'entreprise.
Il y a eu un changement de paradigme avec les GAFAM, justement, quand on a commencé à avoir des plateformes vraiment mondialisées, globales, parce qu'il y avait une distribution avant des interactions entre les internautes qui était un modèle de networking qui s'appelle les Little Boxes. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on était des petites communautés, un petit peu éparpillées comme ça, réunies autour de centres d'intérêt. C'était les forums il y a 20 ans. Et ces forums-là, ils pouvaient être connectés entre eux, à d'autres forums, etc. Ouais. Donc, on avait quand même des petits villages et connectés en mode global. Aujourd'hui, on est sur un modèle d'individualisation connectée où on est vraiment dans un
bordel global. Donc, c'est l'utopie du village global dont tous les gens parlent depuis 20 ans qu'on a atteint.
Au lieu d'avoir plein de petits villages réunis dans un truc global, on a une mégalopole.
Un immense village,
c'est plus un village.
Je vois pas, moi, l'utopie du village global, c'est un truc qui m'a toujours fait triper parce qu'il n'y a rien de pire que la mentalité village, en fait. Donc, non, vouloir mettre ça à l'échelle du monde.
Et puis, de toute façon, c'est impossible.
À part pour les PMU, c'est vrai.
Non, mais c'est pas global, un PMU.
Mais ça, qu'est-ce que tu penses de ce revirement 180-720 sur les valeurs fondatrices du web?
C'est pas mal qu'on réfléchisse, qu'on commence à réfléchir.
Donc, en fait, toi, tu les accueilles, en fait, du coup.
Ouais, j'ai senti que, enfin, j'avais l'impression, l'intuition, je sais pas si c'est vrai, que juste ils se disaient, c'est Internet. Il se passe des trucs et qu'à force de masse, ils se sont dit, il y a des vrais problèmes de harcèlement, enfin, les mêmes problèmes que dans la vie.
Mais là, tu parles des autorités ou tu parles de toi en tant qu'utilisateur
des gouvernements.
Ouais.
Là, mon grand souci, c'est que donc, maintenant, ils savent ça, qu'ils doivent légiférer. Je ne sais absolument pas s'ils ont les métiers pour savoir comment réguler ça.
Bien sûr qu'elles ont fait Adopi, c'était magnifique.
Voilà, et surtout, tu te dis, en termes d'écriture de loi, de texte, machin, ça va être hyper compliqué parce que la plupart de ces sites qui sont déjà illégaux, ils sont dans des espèces de trous noirs légaux. Et donc, ils vont trouver d'autres trous noirs. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais ça va très vite.
Du coup, je te repose la question à toi, Mélissa, mais à vous tous, avant qu'on passe la parole aux gens, est-ce que vous pensez avoir changé d'avis par rapport à vous d'il y a 15 ans sur les valeurs fondatrices du web ? Mélissa, genre, liberté d'expression, gratuité totale, village global, connexion sans limite, non-régulation. Le fameux Far West, j'ai l'impression qu'on est né en 2007.
Est-ce que tout le monde est là, changé d'avis ? On est très nombreux, donc on est obligé de mettre un peu des règles. Quoi, ouais.
D'accord. Donc, mais ça a un peu changé d'avis. Daz, est-ce que tu as changé d'avis, toi ?
Ouais, mais dans l'autre sens, en fait.
D'accord.
Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un troll ou quoi, mais en fait, j'aurais été pour plus de contrôle.
Ouais.
Et en fait, maintenant qu'on l'a, je me dis, mais non, mais les fachos, il faut les laisser parler.
Tu n'es pas un troll, tu es un Français, tu râles.
Ouais, ça doit être ça.
Non, mais il y a laisser parler et laisser faire les trucs horribles.
Ouais, je sais pas. Enfin, là-dessus, moi, tu vois, qu'on supprime les subreddits de suprémacistes, je trouve ça dommage pour les gens qui veulent se documenter sur les
mongoliens. D'accord. Donc, toi, t'es justement sur ce genre de truc, ça te déçoit qu'on revienne en arrière, par exemple ?
Bah, ouais, parce qu'en fait, je préfère les savoir visibles
que
de me dire qu'ils sont tapis dans l'ombre en train de préparer un renversement des. Tu vois, du gouvernement, quoi.
Très bien. Fibre, est-ce que t'as changé d'avis sur les, on va dire, les 10-15 dernières années par rapport à ta vision de ce que t'es Internet et quelles étaient ses valeurs ?
J'aimerais dire non parce que ça serait, j'ai l'impression que c'est la preuve que je vieillis. Mais malheureusement, enfin, c'est même pas les 15 dernières années, c'est les dernières années.
Ouais.
J'ai trouvé que Twitter était devenu super violent, super toxique.
Ouais.
Et il y a 3 ans, j'aurais dit, mais on peut tout dire sur Twitter, c'est très important. Et là, ça m'embêterait beaucoup de dire à des gens, vous ne devriez pas parler. Je ne vais pas le faire.
Mais
effectivement, non, mais en fait, il y a un problème de violence. Et je ne sais pas comment le résoudre. Voilà. Et j'aimerais que la solution ne soit pas bah « Écoutez, monsieur, vous n'allez plus vous exprimer. » J'espère qu'il y en aura un autre, mais
d'accord.
Voilà,
mais j'en ai pas. Comme Mélissa, tu sens qu'à un moment, qu'on est beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
Il faut trouver quelque chose. Quoi.
Peut-être une législation de forum, je ne sais pas. Sylvain, est-ce que tu as changé d'avis, toi, sur ta vision de ce que devait être le web et quelles étaient ses valeurs fondatrices entre aujourd'hui et il y a 10 ans ?
Avant de te répondre, je voudrais juste préciser le fait qu'on fait un petit peu un raccourci quand même sur le fait qu'on estime que la violence, c'est une conséquence d'Internet, en fait.
Ouais.
Et que, comme l'a dit Daz dans sa chronique, c'est une conséquence de la société juste, quoi. Et que peut-être que la société devient plus violente en global et que c'est pas seulement la faute d'Internet, quoi.
D'accord.
Quand un mec fait peut-être un truc dans la vraie vie, il se fait arrêter par la police. Quand un mec fait un truc, parfois, qui est la même chose sur un site, il se fait pas forcément arrêter.
Je pense que si tu mets 14 personnes dans une cabine téléphonique, à un moment, ils vont devenir violents. Si tu mets 14 personnes dans un stade de football, ça peut bien se passer. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de place virtuelle dans certains domaines d'expression qui fait que les gens deviennent violents. Tu vois, mais bon.
Tu parles de Stack Overflow.
J'aime bien cette métaphore. Donc ça m'amène à la réponse à la question. Moi, je crois toujours en ces valeurs.
Ouais.
Par contre, je pense qu'elles ne sont plus compatibles avec cet Internet-là.
D'accord. Très bien.
Mais je crois en un autre Internet.
C'est beau. Tu prépares déjà ta prochaine campagne présidentielle, toi ?
Ouais, j'en étais sûr.
Je pense aux électeurs. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir ? Alors, il y a des mains qui te lèvent. Voilà. On va donner priorité à des gens qui n'ont pas parlé encore, je ne sais pas. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, pour le fait de l'Internet d'il y a 15 ans, je ne pourrais pas répondre parce qu'il y a 15 ans, j'avais 5 ans.
Donc, ouais, voilà. Tu peux reprendre le micro, Sylvain, s'il te plaît. Tu es trop jeune pour parler.
Pour la beauté de la chose, est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement que c'est la victoire de Studio 404, que l'Internet est enfin considéré comme la vraie vie, et que dans la vraie vie, si t'as un masque dans l'espace public, on te fout en tôle. Si t'insultes des gens, on te fout en tôle. Si tu voles des pommes, des films, les infos de quelqu'un...
Est-ce que vous téléchargeriez une voiture ?
Pour le coup, justement, moi, je suis arrivé sur au final, que très récemment, sur tous les Reddit et 4chan, etc. Parce qu'avant, bah, j'avais la barrière anti-noob qui me bloquait. Et je vois tout simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas souhaitables. Alors, en effet, comme dit Sylvain, je pense que c'est parce que l'Internet est différent qu'au début. Mais s'il est différent, dans ce cas-là...
Non, c'est des gens qui se regroupent pour discuter et partager des intérêts communs.
comme la haine des femmes, par exemple.
Par exemple, ou celle des migrants ou des choses comme ça. Mais fondamentalement, donc, ils ont respecté les valeurs d'Internet, ils se sont regroupés entre eux.
Oui, mais là où tu es d'accord avec Mélissa, c'est qu'effectivement, ça prouve que l'Internet Life, c'est la vraie vie, en fait. Ouais. Que, du coup, là, on est en train de réajuster l'un à l'autre.
Et du coup, pour moi, les piliers d'Internet dont vous parlez, en fait, sont, c'est pas des bonnes choses.
D'accord.
Enfin, je...
Ah, non, très on bien. Y arrive.
Non, mais très bien. Mais effectivement, ouais, on avait cette discussion de est-ce que les piliers d'Internet marchaient effectivement quand on était 2000 chercheurs à travers le monde sur une population très éparse et très homogène et que ça marche plus avec quand en on vrai, est 4 milliards.
Je téléchargerai une voiture, moi.
Mais évidemment, évidemment, c'est pas une question. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Oui. Pourquoi ce petit A Fibre?
Quelqu'un qui n'a pas parlé jusqu'à présent.
C'est vrai.
Voilà pourquoi ce A.
Bonsoir.
Fibre m'a déjà liké un jour, mais je ne sais plus si je dois bien le prendre maintenant. non, c'était plus l'idée de, du coup, se créer son Internet sécurisé. Moi, j'ai remarqué que ça fait un bout de temps que j'ai unfollow plein de gens, que j'ai retiré plein de gens sur Facebook. Et du coup, je me suis retrouvée dans une petite bulle, mon Internet à moi. Je me limite dans plein de choses. Maintenant, Google me remonte que des infos de sites que je veux voir,
ouais.
Me remonte du coup un endroit qui est moins nocif, vraiment. D'accord. Moins nocif.
Donc là, en fait, tu remets en cause la notion de village global.
Bah, c'est ça, ouais.
Parce que le village global, encore une fois, même si Daz n'y a jamais cru, ça a été une utopie pendant très longtemps de le fameux Connecting People de Nokia ou le fameux connecter les gens entre eux dans le monde entier de Facebook. Et là, toi, tu le remets en cause, tu dis non, je reviens à, comme tu disais aussi, Sylvain. Les petits villages, en fait.
Tu veux ta bulle, t'es bien dans ta bulle de filtre.
Il y a eu
la bulle filtrante, la fameuse.
Mais t'es un petit peu surprise quand il y a des élections, quoi.
Bah, disons que j'en suis venue à plein de choses, en fait. C'est que je m'en suis venue à muter beaucoup de gens, que ce soit du politique, quel que soit le parti, quel que soit le truc, parce que j'ai pas envie d'avoir tous ces débats. Quand je passe ma journée sur Internet, j'ai pas envie de me reprendre des vagues de haine, des vagues de trucs insupportables. Et du coup, j'ai vraiment filtré tout. Sur Facebook, je suis passée de 800 personnes à 200. Sur Twitter, c'est pareil. Je dois suivre 800 personnes, mais j'ai fait des listes à côté. Et en fait, finalement, je suis 20-30 personnes, pas plus. Et c'est vraiment... Ouais, j'ai essayé de recréer un espace parce que je me sentais plus bien du tout dans l'Internet global. Quoi.
Donc là on parle, mademoiselle parle plus du village global où tout le monde peut parler à tout le monde. C'était le fameux Connecting People.
800 contacts Facebook.
Mais attends, il y a des gens qui passaient la barre et qui atteignaient la barre des 5000, Daz.
Pour moi, 200, déjà, c'est énorme.
Oui, mais Daz, à chaque fois, tu t'étonnes parce que t'es de bon sens.
Alors qu'on mais faites comme moi, je sais pas. Enfin, non, mais 800 contacts Facebook.
200, c'est pas tant que ça. 200, j'ai les copains de la primaire que je vois encore, les copains du lycée, les copains de la fac,
les gens qui te font culpabiliser parce que tu les as pas jetés en ami. On pourrait revenir sur la chronique de Mélissa, mais le fameux.
Et encore sur les 200, je dirais qu'il y en a bien une centaine qui sont en connaissance, donc ils voient pas grand chose et je vois pas grand chose d'eux. Que je garde un peu par principe, les cousins, cousines que t'aimes pas trop.
Pour ne pas les vexer.
On en a parlé il y a quelques temps avec la bulle filtrante, mais il y a eu récemment une campagne sur Twitter qui n'a pas eu trop d'écho, mais c'était « je like un post que je déteste » pour sortir de ma bulle filtrante. Il y a une D'accord. campagne hashtag « un like pour un post que je déteste ».
Il y a Vice qui a sorti une extension Chrome qui analyse ce que tu likes sur Facebook et du coup te propose des trucs à l'opposé et te demande de les liker. Quoi.
Et donc c'est une forme
pour que tu mélanges un petit peu tout.
C'est un village global éditorialisé.
Là non, là c'est c'est pour péter ta bulle de fil.
C'est pour te reglobaliser, pour dire effectivement Internet, c'est entendre toutes les voix et pas celles qui sont à côté de toi, celles que tu veux entendre, mais éditorialisé.
Ouais. Bon, après il faut se protéger parfois.
Ah, j'ai l'impression que tout le monde est dans le gris. Est-ce qu'une autre personne dans le public qui voudrait réagir à ça? Oui.
Ah, à nouveau. Comme ça, on sait que.
En fait, il dit ah pour attirer les likes. Il dit ah, je suis très content de vous voir. Je ne vous connais pas, mais vraiment. Bonsoir.
Bonsoir, je m'appelle Simon.
Bonsoir Simon.
C'est en fait, je me posais la question en vous écoutant. Je me disais, en fait, le risque, c'est que ça soit les opérateurs eux-mêmes qui décident ce qui est bon ou pas sur la liberté d'expression. Parce que quand on réfléchit, la liberté d'expression, elle existe déjà, elle est en place, et les limites, elles existent aussi. C'est juste que c'est assez difficile aujourd'hui de les mettre en œuvre.
Elles existent, mais elles sont à bon vouloir des opérateurs, des sites.
Non, elles n'existent pas vraiment. Par exemple, si tu dis quelque chose qui est à l'encontre des homosexuels, en France, c'est illégal. En Russie, sur Twitter, ils vont dire pourquoi pas. En Iran aussi, ils vont dire c'est de bon sens, tu vois. Et aux États-Unis, comme la liberté d'expression est totale, ils ont la politique de Twitter qui est de dire si j'ai suffisamment de gens qui me disent que c'est pas bien, on l'enlève. Donc, en fait, c'est ce problème de débordement national, tu vois, et de culture. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que les homosexuels, il ne faut pas les discriminer, il faut au contraire les positiver, tout ça. C'est quelque chose avec lequel je suis parfaitement d'accord. Mais si l'idéologie dominante, c'était celle de la Russie ou de l'Iran,
Oui, d'accord, au niveau global, c'est totalement vrai. Mais sinon, moi, quand je parlais des limites qui existent déjà, c'est qu'en fait, le problème, peut-être, c'est que les procédures pour justement responsabiliser les gens qui abusent de cette liberté d'expression, elles sont trop dures à mettre en œuvre, mais elles existent déjà. Et je pense que c'est très dangereux de dire aux opérateurs, c'est à vous de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et ensuite,
mais qui doit le faire alors?
C'est les utilisateurs qui, quand elles sont victimes en fait, d'abus, ou quand elles constatent des abus, peuvent faire des procédures.
Oui, mais des procédures, mais encore une fois, qui fait la législation? Est-ce que c'est un gouvernement? Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est
la plateforme? En fait, le but, c'est de partir des règles qui existent, qui sont normalement très larges et qui sont capables de couvrir ces points. Enfin, je pense, hein, pense que c'est mettre le pied dans l'engrenage. Si on dit aux gens légiférer, et je connais parce que je travaille dans ce milieu-là, clairement, ça va être l'horreur. On ne va plus pouvoir rien faire. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur d'autres exemples, ça va être un tri.
Qu'est-ce que tu entends derrière opérateur? C'est les plateformes?
Oui, les plateformes.
D'accord, pas les FAI, excuse-moi. Je pensais que tu parlais des FAI, du coup.
Non, les plateformes.
Mais du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, chaque plateforme a ses propres règles. Par exemple, sur Twitter, le porno, c'est autorisé, pas sur Facebook. Et ça pourrait être la même chose pour les discours haineux, par exemple. On pourrait dire que sur Facebook, tu n'as pas le droit d'être homophobe, alors que sur Twitter, tu as le droit.
Oui, et comme disait Fibre, dans les pays, ça change aussi. Un même opérateur peut avoir des règles différentes suivant les pays.
Et ça pose aussi le problème de l'américanisation du monde. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, par exemple, Facebook censure des œuvres où il y a des vagins, par exemple, et ça nous choque. Bon, c'est des petits cris d'orfraie, pas très intéressant. Mais la problématique qui est derrière, c'est qu'effectivement, on s'aligne sur l'Amérique. Oui, on va dire, c'est difficile de parler de culture française alors qu'on porte des jeans, qu'on va regarder Marvel et qu'on va twitcher et qu'on fait des podcasts. Il faut vraiment creuser pour trouver qu'est-ce qui est français dans nos vies aujourd'hui.
Il y a Dailymotion, tu sais.
Ouais, Dailymotion, qui a un nom anglais. Si effectivement Facebook, ça devient notre
donc, quand on parle de village global, on parle de village global grandement fait par des Américains aujourd'hui. C'est vrai aussi.
Peut-être demain sera chinois.
Je sais que tu croises les doigts tous les soirs, que tu pries Kaifouli pour que la Chine. On va prendre une dernière intervention du public, une personne qui voudrait parler. J'ai une personne ici. Alors allons-y.
Une personne qui ne s'est pas encore exprimée.
Ah, tu peux faire un A alors du coup.
On a une diversité incroyable.
Non, moi j'ai juste été choqué un tout petit peu par les dernières interventions en me disant est-ce qu'il n'y a pas ici un fantasme de la législation d'Internet par rapport à la législation de la vraie vie? Alors je sais qu'on est dans l'émission de la culture numérique, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui s'insultent, qui ont des propos racistes et ils finissent pas en taule. Enfin,
tout à l'heure, on peut porter plainte contre eux pour propos racistes.
Non, mais il y a un moment où il y a la législation, l'application. C'est-à-dire là, pareil, on peut dénoncer un poste et il sera pas supprimé forcément. Enfin, il y a un moment où il y a tout un tas de dysfonctionnements qui existent dans la société pas numérique qui sont déjà pas réglés. Et c'est pas que parce qu'il y aura une législation qu'il y aura des choses qui se règlent, quoi.
D'accord. Donc votre point, c'était que la législation, elle ne va pas non plus tout régler, mais est-ce que vous seriez pour ou contre une législation maintenant, par exemple, de la liberté d'expression sur Internet?
Oui, c'est normal. Enfin, normalement, c'est ça. L'Internet, c'est devenu la vraie vie. Enfin, ça l'a toujours été, mais plus c'est globalisé, plus c'est une pratique qui est admise par un nombre de personnes importantes dans la société, plus ça devient quelque chose qui rentre dans l'œil du législateur, en fait.
Bien sûr.
Donc oui, une législation, ça serait normal par pays. Alors ça pose le problème de la globalité, de la globalisation. Et là, il y a un problème. Enfin, il y a des défis de législation qui sont là. Mais évidemment qu'il y a une législation à mettre en place. Mais ça ne résoudra pas les problèmes pour autant d'un coup.
Oh, ta prophétie, Mélissa, après 5 années de ce 404, c'est bon. L'Internet live, c'est la vraie vie.
On y arrive enfin.
Bon, j'ai l'impression que même si tout le monde a des détails un peu différents, tout le monde est quand même un petit peu d'accord pour accepter ces choses-là, en fait. Est-ce qu'on enterre ce soir
Non,
pas toi.
Non.
Il faudra en parler sur le forum.
Quel forum?
On l'a fait combien de fois, là?
Allez. Quel forum? Une solution, d'ailleurs, entre tradition, parce que c'est un forum, et modernité parce que c'est des discours. C'est pas mal, ça.
Ouais. Je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants de l'année, parce qu'il est... C'est vraiment un truc d'actualité qui, je pense, va avoir un impact très fort sur le futur d'Internet et qui va durer très très longtemps. Et on n'est pas au bout des rebondissements qui vont arriver.
Ah bah là, on est en train de... Encore une fois, on arrive on est vraiment au début. On verra si on l'enterre ou pas. C'est 30 ans d'Internet, là.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, on a des gens qui écoutent CUE 404, donc qui sont normalement une communauté d'avis plutôt convergents. Et pourtant, il y a des gens qui utilisent Internet d'une manière que moi, je ne l'utiliserai jamais. Tu vois, le fait de se créer sa petite bulle, machin, etc.
Mais c'est intéressant, du coup, de voir ça.
C'est intéressant de le voir, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont à 180 degrés par rapport à ce que toi, tu considères être l'usage standard.
Mais est-ce que tu n'étais pas dans une petite bulle, d'une certaine manière, Daz, alors
bah, si une petite bulle qui essaie d'intégrer les grandes, tu vois. Mais oui, finalement, ouais, ils sont passés sous mon radar. Ah, mais c'est bien. Hein, c'est... en fait, pour moi, il faut vraiment de tout. Et...
Pour faire un monde.
Ouais, parce que
personne dans la vie
ne choisit sa couleur. Ouais.
L'important, c'est d'écouter son cœur.
Ouais. Mais celui qui se sent pareil, différent, bah, très bien.
Ouais, très bien, très bien. Ouais. Bref, moi, je le tiens, tu le tiens.
Là, tous les millennials n'ont rien compris.
Enfin, le millennials qui a 20 ans, petit connard. Les autres, évidemment, ont rigolé. On clora ce débat. J'espère que d'ici la publication de l'émission, le forum sera up, parce qu'évidemment, comme tu dis, Sylvain, c'est un gros débat parce qu'on est en train de digérer et peut-être d'enterrer 30 ans d'Internet.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de ce Studio 404 du mois d'avril. J'espère que vous êtes bien régalés. On a parlé avec Sylvain, des connards.
Ouais.
Non, je rigole. Des gourous de la motivation. On vous rappelle la morning routine. Levez-vous, pitch and startup, buvez un citron tiède. Lance un podcast.
Faites votre lit, faites caca.
Apportez des vues à Maxime Barbier, parce que là, avec ses 200 vues quotidiennes, moi, il me fait de la peine.
T'es dur.
Il va nous claquer entre les doigts.
Maxime Barbier, qu'on salue de loin, qu'on n'embrasse pas. Fibre Tigre nous a parlé de ces communautés, donc de ces forums. Comment, à un moment, ça devient good cop? Comment, à un moment, ça devient bad cop? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le niveau d'éducation, la taille de la communauté, l'ancienneté de la communauté. Comment on fait pour avoir une bonne communauté comme de qualité?
Point d'interrogation. Si vous avez des idées, ça nous intéresse.
Très bien. Mélissa nous a parlé de l'enfer des autres. Ce besoin d'amour.
Mais je vous aime quand même.
Besoin d'amour, c'est quoi cette chanson de France Gall, ça?
Besoin d'amour. D'amour, envie de.
C'est Laurie. Quoi?
Non, besoin d'amour, envie de toi, c'est inventé, ça. C'est besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de like. Voilà. Comment on se retrouve pris en otage par le besoin des autres d'avoir du social grooming, d'être aimé? Et quand il y a de plus en plus de gens qui produisent de plus en plus de choses, peut-on aimer tout le monde si nous ne sommes ni Bastien ni Fibre Tigre? Question compliquée. Et enfin, nous avons fini avec Daz qui est revenu sur le fondement, les valeurs fondatrices d'Internet.
Au calme.
Au KLM. Google est devant le congrès et c'est peut-être en train de...
Facebook,
est devant le congrès. Je crois que Google et les autres vont suivre hein, dans pas très longtemps. Et c'est peut-être le rideau sur une grosse époque. En tout cas, on a vu dans les réactions du public que chacun avait un peu sa vision des choses. Mais on sent aussi qu'il y a un changement d'avis par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a 10 ans. Vraiment, il faudrait qu'on retrouve cette fameuse intervention de Nicolas Sarkozy sur civiliser le Far West d'Internet, puisque c'est littéralement ce que nous sommes en train de faire 11 ans plus tard.
Prophète, digital prophète.
Ah, Nicolas, si un jour tu pouvais venir... De toute façon, il reviendra, même si on ne veut pas, il reviendra. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci à vous, le public. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Envoyez-vous des likes. Envoyez-vous de la dopamine. Prenez les handles Twitter les uns des autres. Likez vos statuts, RT les uns les autres. Ouvrez des comptes secondaires, des fanpages Facebook que vous obligez les gens à aimer, hein, parce que vous verrez qui n'a pas répondu à l'appel. En tout cas, bah nous, du coup, c'est la fin de ce Studio 404. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, Sam, pour la réal et l'organisation. Nous sommes chez Publicis. Dans quelques jours, nous serons au camp. Donc, nous serons coupés de tout. Il n'y aura plus de village global, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de forum.
Il n'y aura plus de forum. Ouais.
Il n'y aura aucune règle dans ce camp.
Si vous voulez, je peux le modérer, j'y suis pas.
Non, il n'y aura pas de modération. On n'a qu'à faire un camp où il n'y aura pas de modération, on pourra dire ce qu'on veut et agir comme on veut.
Absolument. La loi française ne s'appliquera pas dans le camp.
Ah, le bordel. Et on reviendra.
Vous avez vu Mad Max ou pas?
Et on reviendra en tout cas. Oui, merci beaucoup, évidemment, à Publicis. Merci à notre sponsor, Tony Stark, évidemment, qui en est à son 37e film. En 37 mois, c'est très très fort. Donc Avengers Infinity War partie 1, c'est ça?
C'est ça, je pense, ouais, au moins.
Incroyable. Donc évidemment, allez le voir, ne le copiez pas sur Internet de manière illégale.
Et ne téléchargez pas de voiture.
Dites tout si c'est bien.
Et voilà, on se retrouve dans un mois et à tout de suite sur le forum. Ciao à tous, bye.
Bye.